Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans l'émission Au bout du foot, une émission présentée par Eladji Makalou. Nous allons bien évidemment parler de football, de la finale de la Ligue des Champions qui approche entre l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain. Supporters marseillais, allez-vous supporter le Paris Saint-Germain durant cette finale pour la France? Question, on y arrive. Comment ça va Maxence?
Ça va très bien et toi Eladji?
Ça va super. Et toi Alexandre, comment ça va?
Ça va très bien, ça va très
bien. Bonne semaine de football?
Ouais.
Super. Salson, comment ça va?
Nickel, nickel, hein. Au top. Et toi?
Encore un nouveau trophée au palmarès?
On en sera plus samedi soir.
Bah déjà un en Coupe de France.
Ouais, ça fait déjà Coupe de France, championnat.
Vous
de France.
Le banalisez, hein, les Parisiens le banalisent un
peu. Non, c'est parce que je pense qu'il y a des trophées plus prestigieux. Et du coup, donc voilà, on a plus les yeux sur ça. Et en plus, on en a, ça y est, on est habitué. C'est, voilà, c'est, on va dire, c'est un classique. Sans manquer de respect.
Merci, Salson. Chekenza, comment ça va?
Bien.
T'as déjà commencé à débattre, toi?
Non, mais il y avait des choses à parler en coulisses, mais c'est juste un apéritif, en fait, de ce qui arrive. En fait.
Ah oui, c'est un petit apéritif, quoi. Voilà, on a entendu pas mal de choses. Hein. On va y revenir, bien évidemment. On va commencer avec la Ligue 1. La Ligue 1, on n'a pas eu de journée exceptionnelle de Ligue 1. On n'a eu qu'un match. C'était les barrages entre Metz et Reims. Et le match s'est déroulé de manière équilibrée, si on peut dire. Et il y a eu un partout entre Reims et Metz, et tout se jouera maintenant à Reims pour le match retour. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de barragiste, si vous l'avez regardé déjà, Maxence?
Ouais, bah, ce match-là, c'est jamais des leçons de football. Voilà, on voit jamais du grand football, parce que c'est des matchs entre des équipes qui ont peur. Souvent, le troisième de Ligue 2, il sort d'un parcours un peu du combattant, parce qu'il a déjà gagné un barrage. Le 16e de Ligue 1, surtout Reims cette année, qui ne s'attendait pas à être à cette position-là. Ils ont fait 3 défaites d'affilée sur les 3 derniers matchs. Et ils étaient quasiment sauvés à la 31e journée. Et avec le super parcours de Le Havre pour finir, ils se font doubler sur la fin. Mais c'est une équipe qui joue avec la peur maintenant, parce qu'ils ne s'attendaient pas à être là à ce moment-là de la saison. Donc on a vu un match assez fermé, deux équipes qui se regardent un petit peu. Je pense que la finale de la Coupe de France fait beaucoup de mal à Reims au niveau du calendrier. Après, ils s'y sont qualifiés et c'est tant mieux pour eux. Mais je pense que je vois bien Metz faire la différence au retour, sachant cet élément-là. Samedi soir, le match au Stade de France, c'est quand même physiquement, mentalement, au niveau pour des joueurs comme ça, qui sont des joueurs moyens, qui ne rejoueront sûrement pas de finale dans leur vie. C'est quand même une grosse charge mentale. Donc je vois bien Metz faire la différence au retour.
Merci Maxence. Simple, efficace. Alexandre, qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
Comme il a dit, le match, il était bon. On ne s'attendait pas non plus à, comme il a dit, une leçon de football. Mais c'est deux équipes fermées qui ont peur de perdre. Parce qu'il y en a une qui joue la montée, l'autre qui joue le maintien. Mais tout à l'heure, Stéphane, dans l'émission, il a dit que, selon lui, en tout cas... Il voyait Metz gagner et se qualifier. Moi, je ne suis pas du même avis. Je pense que malgré tout, malgré la finale, malgré la fatigue mentale, etc., je pense que les Rémois, ils vont réussir à se maintenir. Ce sera peut-être au bout de la nuit, au tir au but ou en prolongation ou quoi. Mais en tout cas, je pense que les Rémois finiront par se maintenir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce barrage. Hein, sinon.
Merci. Merci, Alexandre. Salson?
Moi, je rejoins Max et Alex. Hein. De toute façon, c'était pas un match.
Ils n'ont pas dit la même chose. Ah oui, selon le match.
Durant le match. Je parlais pas au niveau du pronostic.
Oui.
Après, tout va jouer logiquement au retour. Après, là, j'ai du mal. Franchement, j'arrive pas à avoir le gagnant dans ce match, parce que c'est tellement un match serré. Les deux Metz, ils ont l'habitude de jouer ce genre de rencontre. Et Reims, pas trop. Et Reims, franchement, même si PSG, c'est fort. Mais déjà, le message qu'ils ont renvoyé, j'ai pas l'impression qu'on est à une équipe qui... J'ai l'impression que l'équipe mentalement, c'est faible. Même au niveau tactique, au niveau... C'est une équipe faible, je trouve.
Mais moi, je pense... En fait, justement, on disait ici, oui, est-ce que Reims doit tout faire pour gagner la Coupe de France, ou est-ce qu'ils doivent plus se concentrer sur le barrage?
Je pense qu'ils ont plus se concentrer sur le non, mais au moins
qu'ils ont fait leur choix, en fait, simplement.
Avec ce match là tu dois préparer ce genre de rencontre qui va arriver, tu vois.
Tu peux t'appuyer sur ce genre
de match.
Je pense qu'ils voulaient aucun blessé.
Ouais, après, ils voulaient pas prendre de risques ou autre.
Ouais, je pense qu'ils ont fait leur choix.
Ouais, ils ont fait leur choix, mais j'attends de voir. C'est pour ça que j'ai encore des doutes. Ça va être un match refermé, mais je mets une pièce quand même sur Reims quand même. Ça reste une équipe de Ligue 1, ça reste une équipe qui ont vraiment pas mal de bons joueurs qui peuvent faire la différence.
Et qui auront leur stade aussi, qui vont pousser avec eux, qui seront chez eux
déjà. Ouais. Donc ça c'est quand même un bonus pour eux. Après, on verra. J'espère pour Reims, franchement, parce que c'est une équipe, moi, un club que j'aime bien quand même, que j'apprécie. Et j'espère qu'ils vont rester en Ligue 1.
Merci, Salsan. Chakenza ?
Bon, en tout cas, je ne vais pas miser vraiment sur Reims. Je crois que les Messins, ils ont les mots à dire. Vu le match et tout ça, bon, même si le match a été un peu équilibré, mais ils ont montré quand même de belles choses et tout ça avec Udol. Et je crois que cette équipe peut la chercher. Maintenant, au football, on n'a plus l'avantage en fait, de jouer à domicile et tout ça. Bon, c'est juste un prétexte parmi tant d'autres. S'ils font le match qu'ils peuvent, s'ils font le match qu'ils ont vraiment les couilles et qu'ils la jouent vraiment sérieusement et que les compartiments sont bien répartis et tout ça, je crois qu'il peut faire douter cette équipe parce que, comme il a dit, cette équipe, en fait, rémoise vraiment depuis pas mal de temps. Elle est en difficulté, en fait, au niveau du jeu et tout ça. Même si le match n'était pas vraiment séduisant, c'était pas un match dans lequel il y avait vraiment du spectacle et tout. C'était un match un peu, voilà, ben après... les Messins, ils ouvrent le score. Après, bon, les Rémois, c'est un but à l'arrache. En fait, c'est un coup franc et tout. Après, il y a Sidi Kipri qui mène tête. C'est pas, en fait, c'est pas ce qu'on s'attendait pour un barrage. Comme il a dit tout à l'heure, je le reviens, parce que c'est des matchs de base qui sont pas spectaculaires. C'est des matchs un peu voilà, au cafouage et tout, qui se jouent avec le minimum d'expérience. Mais je crois que Metz peut les faire douter. Et s'ils le font dans le début de match, ça peut changer un peu la physionomie de match. Mais je vois pas Reims maintenir.
Reims,
je les vois pas. Je vois pas les Rémois, c'est tout. D'accord. Désolé, en fait, parce que j'accentue pas.
Ouais, pas de souci. Merci, chez Kenza. On va revenir sur la Coupe de France direct. Hein. Qu'est-ce que tu en as pensé du match? Il n'y a pas eu match. Le Paris Saint-Germain se sont baladés. Il y avait déjà 3-0 à la mi-temps. Qu'est-ce qu'on peut retenir?
Bon, comme l'a dit Salé tout à l'heure, en fait, les Rémois, ils ont fait un choix. Parce qu'ils savaient que c'était un match dans lequel ils n'avaient pas vraiment en fait, les atouts pour aller titiller un peu, voilà, pour aller un peu bousculer ce PSG qui est en place et tout. On a senti vraiment une ultra domination du PSG. Voilà. C'était un peu, comme on dit, une séance d'entraînement, un taureau. Ça se baladait un peu. Ils ont plus misé sur le barrage, voilà, qui est en fait, qui sera un peu pour sauver la saison. Mais on aurait aimé voir un autre visage de Reims. C'est-à-dire voilà, une équipe vraiment qui était venue pour la jouer parce que c'est une coupe très importante, une porte aussi pour jouer la Coupe d'Europe. Donc, après, ils ont montré un autre visage. On a senti déjà que voilà, dès l'entame, qu'ils avaient vraiment la tête ailleurs, qu'ils étaient plus concernés par le barrage, qui était vraiment le plus important pour sauver la saison. Le PSG, c'est normal, c'est l'hégémonie qui a été respectée. Paris a gagné, Paris a été meilleur et Paris continue d'asseoir sa domination sur le championnat français.
Merci, Chekenza. Salson, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la Coupe de France, la finale?
Bah, déçu, parce que tu sais, si on connaissait un peu la finesse du match, et en plus, t'as deux équipes qui avaient deux grosses échéances sur les prochains jours, t'as pas l'impression qu'ils ont joué leur coup à fond. Le PSG, au bout de 3-0, ils ont calmé le rythme. On s'attendait un peu à ce type de match. Et donc voilà, j'aurais préféré avoir une autre finale un peu plus pimentée, un peu plus pimenté quand même. Ça reste comme une finale de Coupe de France. Et de toute façon, pas de surprise. Hein. Le Paris Saint-Germain a fait ce qu'il avait à faire. Après, a fait tourner un peu. Et Reims, je pense, comme Alex l'a dit, ils ont sûrement choisi. Après, on verra. Ils ont choisi, mais on va le voir sur le match au retour. Hein. On va voir leur attitude, comment ils vont jouer. Et là, on pourra dire, ouais, là, ils ont fait un choix. Mais pour le moment, je ne sais pas si c'est un choix.
Ok, merci, Salson. Et qu'est-ce que tu en as pensé, Alexandre?
Un match inutile en vrai. Hein. Match inutile parce que on savait dès le départ en fait. Et j'ai envie de dire, ils ont fait un choix, ça s'est montré sur le terrain. Mais en vérité, même s'ils n'avaient pas fait de choix, ils se seraient fait rouler dessus. Parce que Paris, ils auraient simplement augmenté le niveau. C'est... Et je trouve que là, bon, cette année, c'est un peu différent parce que Paris, ils sont vraiment, c'est vraiment une très bonne équipe d'Europe. Mais je trouve que c'est typiquement le genre de match qui a fait pendant des années mal à Paris en fait et au football français parce que finalement, il n'y a aucune adversité. Zéro adversité, alors qu'ils sont quand même en finale de Coupe de France. Il y a plein de tours qu'ils ont réussi à passer pour au final de être obligé de choisir entre un match de barrage et jouer la finale à fond. Enfin, franchement, c'était une promenade de santé pour Paris et c'est pas, je sais pas, certains diront que c'est la manière idéale de préparer une finale de Ligue des Champions. Moi, je sais pas, je pense pas que ce soit la manière idéale. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait une vraie adversité parce qu'en plus, ils ont du temps pour se reposer. Après, bon, rien n'est joué, hein. Ça veut pas dire qu'ils vont perdre la finale ou quoi, mais tout simplement, je trouve que c'est un match inutile en fait. Autant donner la coupe à Paris dès le départ et je terminerai.
Dès le départ de la finale pour toi ?
Non, mais façon de parler, dès le départ de la coupe, on peut le dire. Non, dès le départ de la finale plutôt, parce que justement, je terminerai là-dessus. C'est que bah, c'est Reims en finale, bravo à Reims, pas de souci. Mais au final, où est-ce qu'ils sont les gros clubs français en fait ? Ils sont où ? Monaco, Paris, Monaco, Marseille, Lyon, Lille. Où est-ce qu'ils sont ? Je trouve ça dommageable en fait d'avoir une équipe qui propose si peu en finale en fait simplement.
Ok, merci Alexandre. Maxence ?
Bah, je suis assez d'accord avec Alexandre. Pour revenir juste au fait que Reims ait choisi son match, je pense que Reims ils ont rien choisi du tout. Quoi qu'il arrive, qu'ils choisissent ou choisissent pas, ils sont à 1000 lieues du PSG, donc il n'y avait pas un seul monde où ils pouvaient éventuellement faire quelque chose. Si on me dit c'est une équipe comme Monaco qui sur un match peut-être peut espérer quelque chose, Reims, ils peuvent en faire 10 des matchs sur une finale au Stade de France, ils battront pas une fois le PSG. Donc voilà, parenthèse refermée. Mais sinon plus globalement, on assiste, pour moi on assiste à la mort du football français. Hein. Et il y a plusieurs coupables à ça, mais on le voit, c'est-à-dire que même pour les Parisiens c'est devenu un non-événement. Et c'est normal, c'est logique, mais c'est devenu un non-événement de gagner un championnat, de gagner une Coupe de France, de gagner un trophée des champions, de gagner... C'est un non-événement. Et quand on compare avec nos voisins, la finale de la Coupe d'Espagne, la finale de la Coupe d'Italie, la finale de la Coupe d'Angleterre, qui est un événement à chaque fois de fou. Et nous, on n'a plus ça. Et c'est dommageable pour les supporters de tous les autres clubs qui ne peuvent pas vivre ce moment-là. Et c'est dommageable pour les supporters du PSG qui ne vibrent plus sur aucun trophée, mis à part la Ligue des Champions. Donc, c'est quand même assez limitant niveau émotion dans notre football. Et il y a plein de facteurs à ça, hein. C'est redistribution des droits télé, les inégalités dans le championnat, le mauvais travail des outsiders, un petit peu contenders, qu'ils n'ont pas tous à mettre dans le même paquet cette année, parce que quand je vois par exemple, pour prendre l'exemple de l'OM, tu perds contre Lille au tir au but, il n'y a rien d'infamant, contrairement à certaines années où tu perdais contre des équipes beaucoup plus faibles, là contre une équipe qualifiée en Ligue Champions au tir au but ça va. Après, il y a quand même Lyon qui perd contre Bourgoin. Il y a Monaco qui perd contre je ne sais plus qui, mais
une petite
contre
équipe.
Reims, je crois. Ouais, Monaco perd contre Reims. Ouais. Lille contre Dunkerque. Donc voilà, ça, c'est des problèmes. Mais franchement, pour moi, c'est vraiment se voiler la face. Parce que même sur une finale, Lille, Marseille, Monaco, ils l'ont tous fait, la finale au Stade de France contre le PSG. Il n'y a jamais une seule chance. Et on l'a déjà vu plein de fois. Et d'ailleurs, depuis le...
Mais Rennes l'a une fois gagné. Désolé,
une fois, ouais. Une fois en 15 ans, du coup.
Ouais, le stade Rennes avec Hatem Benafa.
Face à un PSG qui était
fébrile.
Pas bien du tout, fébrile, avec ce qui s'était passé en Ligue des Champions juste avant. Voilà.
Dans les émotions, un peu, en fait.
Au tir au but. Voilà, mais une fois en 15 ans. Et sur les 44 trophées qui ont été distribués depuis le rachat du PSG par QSI, il y en a 36 qui ont été au Paris Saint-Germain. Donc, sans compter la première année, il y a eu... Marseille qui a pris un trophée des champions, Montpellier qui a pris le championnat, etc. Et derrière, ils ont quasiment tout pris. Donc en fait, il n'y a plus du tout d'intérêt, que ce soit pour les Parisiens, pour les autres. Et donc, on se retrouve face à des matchs où la finale de la Coupe de France, franchement, elle a aucun buzz. Et moi, en tant que supporter neutre, hein, c'est pas parce que c'est Paris, ça peut être n'importe qui, mais tu me donnes des places pour ce match-là, j'y vais pas. J'y vais pas, j'ai rien à en tirer.
Ah bon ?
Je sais que ça va jouer en marchant. Je sais qu'il n'y a pas un monde où...
Le PSG, ils ont quand même mis le rythme, ils ont été sérieux, non ?
Ils ont été sérieux, mais bien sûr. Mais il n'y a pas match.
C'est l'adversité, en fait.
Il n'y a pas match. Tu sais, on est le seul pays où on arrive au début de la compétition, on sait qu'il va soulever le trophée. C'est quand même dur à assimiler, je trouve.
Mais même au-delà de ça. Quand tu regardes le comportement de Reims, la domination parisienne, les Reims, ils font le bus. Tu vois, c'est une finale de Coupe de France. C'est pour ça que je dis tout à l'heure... ça donne pas envie de, comme il a dit Maxence, ça donne pas envie de regarder. En fait, dès le départ, tu sais que ce qui va se passer.
Et mais ça, en fait, c'est limite grotesque. C'est-à-dire que les Rémois, ils arrivent au stade, ils sont contents, ça leur fait le déplacement au Stade de France, c'est une fois tous les 20 ans pour eux ou tous les 30 ans. Encore, ils ont déjà gagné, ils ont déjà gagné leur Coupe de France en allant
encore,
en finale.
Et encore, t'es même pas sûr qu'ils aient la tête à ça. Déjà.
Voilà, et ils arrivent comme des victimes, parce que là, il y a les barrages, mais s'il n'y avait pas eu les barrages, ça aurait été la même chose. Ils auraient pris leur tarif, ils seraient rentrés à la maison.
Non,
ils
non je crois pas. Peut-être, que, voilà, peut-être qu'ils auraient plus mis de l'envie et tout ça.
Oui, mais ça aurait fait quoi? T'aurais pris 2-0 au lieu de 3.
Ben après, si je revenais, en fait, si un peu à propos, Max, hein, c'est à propos de, en fait, quand tu as parlé de nos voisins et tout ça, parce qu'en fait, c'est tout est dans l'attitude, en fait. Parce que tu imagines qu'en Coupe d'Angleterre, avec un Manchester City, Crystal Palace, on a vu que Crystal Palace, en fait, les Palace, dès l'entame de match, ils mettent, en fait, ils montrent déjà qu'ils sont venus la gagner, qu'ils sont pas venus en spectateur.
Sauf qu'en fin de saison, quand ils touchent les droits télé, Crystal Palace, ils touchent la même chose que Manchester City. Donc Crystal Palace, ils peuvent avoir dans leurs effectifs un mec comme Eze, un mec comme Mateta, un mec comme Lacroix, des mecs qui valent 40, 50 millions d'euros. Reims, la fin de l'année, là, ils vont toucher 5 millions d'euros pendant que le PSG va toucher 150. Donc on fait quoi avec ça?
Donc là, du coup, la mauvaise répartition,
les inégalités
sont, point de vue,
mais les inégalités sont plus fortes chez
elles
nous
qu'ailleurs. Elles sont grotesques, donc du coup, c'est une répercussion en fait sur le niveau des équipes, en fait, sur le niveau de jeu.
Mais
d'après tes propos,
en fin de saison, tous nos clubs, à part peut-être l'OM qui a eu sa qualification en Ligue des Champions, etc., tous nos clubs vont devoir vendre des joueurs. Vendre des joueurs, à part le PSG qui peut acheter depuis des années et empiler. Et donc, tu te retrouves avec un mercato d'hiver où tu récupères Kvaratskhelia, qui est un des top joueurs européens, pendant qu'à côté, tous les autres clubs lâchent dès qu'il y a une offre à 15-20 millions parce qu'ils sont comme ça et qu'ils doivent couper des salaires, ils doivent virer des salariés, ils sont dans la galère pour passer la DNCG.
Et là, je te pose une question. À qui la faute?
Mais la faute à la direction de la Ligue.
D'accord.
Pas que.
L'accord CVC qui a été passé par Labrune et par Nasser, il est catastrophique. Ouais. La répartition, elle est catastrophique. Les Anglais, quand leur championnat, il allait mal dans les années 90, ils ont fait une chose. Ils ont dit quoi? On va être compétitif de la première à la 20e place. Tous nos clubs, ils vont avoir des moyens. Comme ça qu'on va recréer le truc plutôt que qu'en avoir un ou deux qui sont au-dessus. Ça marche jamais comme ça. Et au final, maintenant, la première ligue depuis des années, c'est le championnat le plus puissant. Pourquoi? Parce que tu commences la saison, t'as aucune idée de qui va finir. Finir devant. Tu te dis qu'une équipe comme United, qui a le 3e, 4e budget, ils peuvent finir 17e s'ils font une mauvaise saison.
Ouais.
Chez nous, c'est impossible.
Paris
qui fait une mauvaise saison,
impossible.
Ils finissent 2e. Monaco qui fait une sale saison, ils finissent
3e.
4, 5 max. Mais jamais ils vont finir 15e. Et enfin voilà, on est totalement à la ramasse par rapport à ces pays-là. Et pour moi, ça ne sert personne. C'est-à-dire que même le PSG, ça les sert pas.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'adversité. En fait, on ne prépare pas aussi. On prépare pas aussi la compétition européenne.
Ça dépend des objectifs que le PSG se sont fixés, tu vois. Finalement, l'objectif premier du PSG, c'était d'agrandir la marque au-delà des résultats sportifs.
Ah oui, bien sûr.
Donc au final, tu vois, Nasser, en fait, on lui a donné les pouvoirs, il les a pris. Maintenant, il fait du business, il fait ce qui est intéressant pour lui. Après, bien sûr, l'objectif primordial, c'est la Ligue des Champions. Mais au-delà de ça, l'objectif, c'était de faire grandir la marque PSG, d'avoir une boutique à New York, ils l'ont eu. Donc au final le PSG ils sont très bien, mais la faute t'as dit aux dirigeants de la ligue, t'as dit à CVC etc, mais c'est aussi de la faute, mais surtout au président de club, parce que c'est eux qui
c'est eux qui ont accepté ce schéma là bien sûr.
Ils acceptaient un dilemme vraiment qui est en train de saboter en fait le football français dans toute sa splendeur, parce qu'on a, comme tu l'as dit en fait, ça montre vraiment qu'il y a un écart en fait, il y a un écart qui est très large vis-à-vis des autres championnats, que ce soit la Première Ligue, même que ce soit en fait la Liga, que ce soit la Serie A et tout ça. Même là, aujourd'hui, en fait, il y a des championnats qui séduisent plus que le championnat français. Quand on parle de l'Eredivisie, on sait que vraiment, il y a peu de temps, on ne savait même pas soit c'était entre Feyenoord et l'Ajax qui allait passer devant. Ça s'est joué jusqu'au bout du suspense. Quand on parle aussi en fait, du championnat portugais,
Donc
tu vois en fait, mais en Ligue 1 ça fait pas mal d'années.
Le problème c'est que nous,
il y a l'écart,
mais l'écart il peut pas être réduit par le travail. Tu vois, il y a des clubs qui travaillent bien, mais l'écart ne sera jamais réduit. Par exemple, Le Havre qui travaille bien, qui fait du bon boulot depuis 2 ans, 3 ans, ils ont signé CVC pour avoir le plus petit droit. Ils touchent 1 million par an ou 2 millions. Donc comment tu veux qu'ils réduisent la marge? Même en bossant bien, en sauvant chaque année, ils vont arriver avec le plus petit budget de Ligue 1. Et même en travaillant bien, jamais tu vas combler ce cas-là.
Excusez-moi, je vous ai laissé un peu débattre, mais voilà, il faut qu'on restructure le débat. On parlait juste de la Coupe de France et de Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui sont imposés 3-0 face au Rémois avec un doublé de Barcola et une passe D de Barcola et un doublé de passe décisive de Désiré Doué, notamment, et un somptueux but de Achraf Hakimi. Voilà, le Paris Saint-Germain qui sont prêts
à en découdre
tout simplement avec l'Inter. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec la Première Ligue. On va enchaîner avec la Première Ligue. Vous aimez bien de parler de Crystal Palace, on y arrive juste après. Crystal Palace qui se sont imposés dernièrement face à Manchester City en finale de FA Cup sont allés défier Liverpool, c'est bien ça. Ils sont allés défier Liverpool et ils se sont quittés dos à dos, un but partout, avec un but de Ismaël Assar et un but de Mohamed Salah. Mohamed Salah qui établit encore un nouveau record, tout simplement goal assist de 49, c'est bien ça, hein, 49 ou 47, 49.
Je crois que c'est 49.
49, ouais. Si je ne me trompe pas. 47, c'est 47,
ah, c'est
je crois.
47.
Ouais, c'est 47.
Ouais, 29-18,
goal... ouais,
c'est ça.
47, ouais, c'est ça. 47 goal assist. Hein, et c'est le record, tout simplement, en Première Ligue, hein, à égalité avec d'autres joueurs. Mais voilà, en tout cas, pour vous dire la saison de Mohamed Salah, hein, qui aurait été entachée par une élimination prématurée en Ligue des Champions. Hein, pour ça qu'on pense qu'il ne fait plus partie trop du top Ballon d'Or, mais on en reparlera juste après. On a vu Manchester City qui assure l'essentiel et qui sont imposés 2-0 face à Fulham et s'assurent de terminer 3e, donc joueront la Champions League. Manchester United qui ont dominé Aston Villa de bout en bout, qui ont fait un match plein pour une fois. Je pense que c'est le match plein, plus ou moins référence en tout cas, cette saison en Première Ligue avec la saison catastrophique. Amorim qui s'est excusé auprès du public et qui assure bien évidemment que les beaux jours vont arriver plus tard. Tottenham, à l'image de leur saison, sont inclinés 4-1 face à Brighton, et tout simplement Tottenham qui sont 17e de Première Ligue et qui ont remporté la Ligue Europa face
ouais,
à Manchester
United.
Ils ont une stat incroyable, ils ont 22 défaites. C'est un record pour une équipe qui a réussi à se maintenir. 22 défaites.
22 défaites, voilà le record, merci.
Mais là, Tottenham, ils ont fait la saison. C'est bon, la saison, elle est faite.
Ouais, la saison, elle est faite. Ils ont quand même assez de budget. Assez
ils vont en Ligue des Champions l'année prochaine.
Voilà, il y aura les droits
télé. Ils gagnent un trophée qu'ils n'ont pas gagné depuis 17 ans. Ouais. Voilà, c'est vraiment, c'était malheur aux perdants. Et là, c'est malheur à Manchester United. Nottingham Forest, qui ont fini la saison, qui ont mal fini la saison, et qui sont inclinés face à Chelsea, 1-0, et qui joueront que la Conference League, à moins que Chelsea... non, même si Chelsea gagne.
Oui, parce que la victoire de Chelsea en conférence, ça ne débloque pas une place pour la Ligue des Champions.
Ça débloque pas Ligue Europa. Donc après, Nottingham peut jouer.
Nottingham joue Europa. Ah oui, ok, d'accord.
C'est ce qui me semble. Ouais. Et du coup, peut-être. Le 8e jouera
la Conference
League.
Ouais, sûrement, peut-être.
Voilà,
vu que Chelsea a déjà assuré pour jouer la Ligue des Champions.
Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée de Première Ligue, chez Kenza?
Oui, ça a été une journée vraiment passionnante et tout ça, en fait, avec un peu ce derby, en fait, Nottingham et Chelsea, vraiment. Moi, je pensais que Nottingham, vraiment, allait vraiment aller en Ligue des Champions, vu la saison qui nous sort et tout ça, en fait. Une saison vraiment, en fait, une très bonne saison dans l'ensemble, et même s'ils ont eu des moments de bassesse, des moments de doute un peu. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé cette équipe. Voilà, j'ai pris du plaisir à la regarder jouer. C'est une équipe vraiment en fait, qui joue très bien au football. Voilà, même si défensivement, en fin de saison, ça a été un peu flop. Mais je suis un peu déçu. Après, Chelsea aussi, avec son expérience, comme on a dit, voilà, qui arrive à sortir la tête de l'eau. On verra vraiment ce que ça va promettre pour la saison prochaine.
Merci, Cheikh Kenza. Et qu'est-ce que tu en as pensé aussi de Manchester United qui se sont imposés 2-0 face à Aston Villa? Du coup, ça prive Aston Villa de Champions League.
Oui, vraiment, en fait, les Villains, vraiment, c'est en fait... on m'a dit en Première Ligue, comme tu as dit tout à l'heure, là on voit vraiment le 17e vraiment qui vient faire douter une équipe de haut de tableau. Bon, une équipe de Villens aussi qui a été bon aussi dans l'animation offensive. On avait pas mal de bonnes choses et tout ça. Mais au final, en fait, sur des faits de jeu, déjà une passe de Bruno Fernandes qui la met pour Amad Diallo, qui est jusqu'à la rabattre. Après, il y a des petits faits de jeu, en fait, oui, qui jouent un peu en fait un mauvais coup aux Villens. Et qui sont décrochés des places européennes. C'est difficile, mais ça sera encore dans l'apprentissage. Peut-être qu'ils pourront rebondir. Mais on a vu un Manchester vraiment un peu... c'était le match qu'il fallait faire vraiment pour l'Europa League, en fait. C'est ça qu'ils ont fait, en fait, en championnat. S'ils avaient joué de cette manière, avec ce sérieux et tout ça, avec, en fait, une petite motivation, le Bruno Fernandes qu'on aurait dû voir le mercredi, on l'a vu le dimanche ou le samedi, ça montre qu'il y a un petit problème. Mais après, cette équipe, en fait, peut rebondir sur de bonnes bases, comme a dit Ruben Amorim. Mais le groupe aidant, vraiment, c'est Unai Emery et sa bande. Les Villains sont le groupe aidant, vraiment, de cette dernière journée de Premier League.
Merci, Cheikh Kenza. Salson, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Nottingham Forest, hein, qui était l'équipe qu'on n'attendait pas là, mais qui faisait le parcours idéal. Et en fait, quand on a fait le. Tout simplement, quand on établissait le truc, on disait que, OK, Nottingham Forest, là, vont jouer une Coupe d'Europe. Ça, c'est obligatoire. Et ça, c'était le pire des scénarios qui auraient pu arriver. Hein. Nottingham Forest qui ont enchaîné pratiquement que des défaites depuis ce moment-là. Et depuis la 32e, 33e journée. Et ce qu'ils font, qu'ils terminent 7e de Première Ligue. Or, qu'ils étaient bien installés en tant que 3e. Qu'est-ce que t'en penses, Salsan?
Bah, ils avaient très bien commencé le championnat. Ils avaient fait un beau parcours. Maintenant, est-ce qu'ils ne sont pas à leur place? Parce que moi, je ne comprends pas que sur la fin de la saison, tu arrives à perdre autant de matchs et sachant que tu étais sur une place confortable, surtout par la Ligue des Champions.
Ouais, ils avaient une avance hein, sur Manchester City.
Tu te dis, est-ce qu'ils voilà, ne sont pas retombés à leur place et, est-ce qu'ils n'ont pas fait? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Ça ne s'est pas fait pendant la saison, ça s'est fait à la fin de la saison. Donc, au bout d'un moment, tu te dis... Bon, pour moi, ils sont à leur place, hein, c'est tout.
Après, ils sont des équipes aussi qui étaient préparées pour le maintien, qui étaient préparées vraiment pour jouer l'Europe. Et peut-être que, vu vraiment en fait, les performances et tout ça, à un moment donné, ils empilent les points. Après aussi, en fait, c'est des choses en fait, qui dépendent aussi de l'état de forme physique des joueurs.
C'est même pas physique,
à un moment
là,
donné.
Je pense,
mais quand tu
mental.
Regardes vraiment les buts qu'ils encaissent et tout ça, en fait, les déboires et tout ça, la défense vraiment qui se prend en fait, à un moment donné, ça montre que le manque de concentration, il y est, tout ça, quand il y a la fatigue qui s'installe. À un moment donné, on était concentré.
Ils
se fatiguent
de quoi ? Ils ont fait quoi ? Ils ont fait une Coupe d'Europe cette année ?
Non, pas du tout. Alors, mais quand tu t'imagines qu'en fait, au début de saison, tu donnes le max. Après, c'est des humains, ils ont des coffres en fait.
Non, et puis c'est pas illogique non plus. Ils sont rattrapés par leur niveau. C'est-à-dire qu'ils ont eu de la réussite pendant une partie de la saison aussi, avec beaucoup de matchs gagnés 1-0 sur le fil, etc. Une solidité défensive. Mais ils sont rattrapés par le talent. Toutes les équipes qui finissent devant eux, c'est des équipes qui ont des joueurs de classe qui peuvent te faire te débloquer des matchs. Le but que met Marmouche la semaine dernière, il n'y a pas un mec de Nottingham qui est capable de faire ça.
Non, moi, c'est en fait, ils sont à leur place, c'est tout.
Et ils sont même au-dessus de leur place, au-delà de la place
c'est ce que
terminer.
Je disais tout à l'heure.
C'est déjà
équipes.
Une très belle saison. Pour moi, il ne faut pas le voir du prisme négatif. Il faut se dire que Nottingham a fait une super saison. Leurs supporters, ils ont vibré. Ils se qualifient pour une compétition européenne l'année prochaine. Donc, c'est super qu'un club historique comme ça... puisse revenir sur le devant de la scène. Mais pour moi, il ne faut pas le voir comme un échec. Ça aurait été illogique qu'ils se qualifient en Ligue des Champions.
C'est bien même qu'ils aillent en conférence, qu'ils soient à leur niveau, qu'ils jouent cette conférence, voir ce qu'ils peuvent faire déjà dans ce genre de compétition.
Peut-être pas la remporter, pourquoi pas.
Non, mais, mais
déjà la jouer et voir ce qu'ils valent déjà.
De toute façon, un Anglais qui va dans une compétition européenne, il a
pour beaucoup de chance.
Surtout ces petites compétitions-là, entre guillemets, Europa League et Conference League.
Pour moi, c'est un bon test pour eux déjà d'être dans ce genre de compétition, que d'arriver en Ligue des Champions. C'est parce que si c'est pour la Ligue des Champions et faire comme le GC Nice en Ligue Europa.
Bon, les Anglais, ils font rarement comme le GC Nice.
Quand
tu regardes le parcours des Villas,
juste avec l'intensité qu'ils mettent dans les matchs, tu sais qu'ils vont causer de problèmes. Oui. À beaucoup d'équipes, on peut penser à Newcastle qui a été des jeunes novices aussi qui sont arrivés et qui ont posé pas mal de problèmes à des grosses écuries
telles que le PSG et tout ça.
Là, vous dites que Nottingham là pour moi ils sont à leur place, mais t'arrives en Ligue des Champions, t'es obligé de mettre une intensité de jouer les vrais coups et ça peut te porter préjudice en championnat.
Les Anglais ils ont une capacité de financement qui est importante, c'est-à-dire que Nottingham se qualifie en Ligue des Champions, ils vont pouvoir poser 160 millions.
Regarde même sur le mercato.
Là ils ont sur le mercato et ils ont faire une équipe solide.
Sunderland, ils ont pris 200 millions là
voilà.
En montant.
Donc,
ouais, 238 millions de droits.
Donc là si c'était qualifié en Ligue des Champions, je pense qu'ils auraient récupéré 6 7 8 joueurs titulaires et ça aurait changé.
Ils gagnent plus même que le vainqueur de la Liga en fait. Une équipe qui est des championship.
C'est pour ça qu'il y en a aussi, c'est un business parce que Burnley aussi remonte en première ligue, mais ça c'est un business . Tu descends une saison, tu remontes l'année d'après, parce que je pense pas que tu prennes pas beaucoup même quand tu termines dans les derniers.
En fait, en Angleterre, ils ont mis en place ce qu'ils appellent un parachute, c'est-à-dire que les équipes qui descendent de D1, elles ont encore les droits télé de première ligue pendant un an. Donc ça leur fait une différence par rapport aux équipes qui sont déjà en ligue en championship, et ça leur permet de faire l'ascenseur et de remonter direct. Donc souvent on voit des descendants qui sont promus.
Je trouve que ça c'est pas mal, parce que t'as beaucoup de joueurs de clubs de Ligue 1 quand ils descendent, c'est, ça va tout droit. Ils arrivent en Ligue 2, ils ont du mal à remonter.
Et même pour les salariés, pour l'ensemble du club, les intendants, les communications,
ouais, c'est
etc.
Une fight,
ça
en fait.
Permet
c'est
de
une fight.
Rester un petit peu plus serein pendant une année.
T'as des clubs de Lyon comme Girondins de Bordeaux, ils en sont. T'as, regarde, Sedan, je passe à Sedan.
Clermont-Ferrand.
Clermont, tu vois, c'est des clubs qui
ont fait les barrages pour rester
en Ligue 2. Même Nîmes,
même Nîmes, ça fait que sombrer en fait.
Il y en a plein, Sochaux, Nancy,
Gaillard
qui finit par s'éteindre.
Bah Nancy qui remonte.
Petit à petit,
il remonte en Ligue 2. Ouais.
Il remonte en Ligue 2.
Ah, mais tu veux dire, c'est des clubs que quand ils descendent de Ligue 1, t'as l'impression que c'est direct.
Ouais, c'est une spirale en fait, c'est une spirale négative qui s'arrête pas.
À part Metz
en fait.
Et Lorient, parce que Metz et Lorient, ils savent faire, eux, c'est leur modèle. Mais ouais.
Plutôt Metz, c'est les champions dans ça.
Pour revenir à la première ligue, on n'a pas assez parlé de Newcastle aussi. Newcastle et Aston Villa, les deux avaient leur destin en main, entre guillemets.
Newcastle ont perdu, mais ça n'a rien changé.
Exactement, mais ça aurait pu être très chaud pour eux parce que. Eux,
juste un match nul de Nottingham,
ouais, les Magpies,
ils jouent Everton qui n'a plus rien à jouer, qui est en fin de saison en roue libre totale, et ils arrivent à perdre ce match-là. Je trouve
plus
que
à domicile.
Je trouve que c'est une grosse contre-perf, et ils auraient pu tuer leur saison juste sur ce match-là. Et eux, pour le coup, autant Nottingham, autant Newcastle, on peut en attendre des choses. Ils ont fait la Ligue des Champions cette année, ils n'ont pas été ridicules. En première ligue, ça fait un petit moment qu'ils sont compétitifs, ils ont les moyens financiers. Donc eux, pour le coup, ça aurait été vraiment un flop qui ne se qualifiait pas la dernière journée.
Et Chelsea aussi, hein, qui ont assuré le coup. Alors moi, je voyais Chelsea mal finir.
Ouais.
Mais
ouais.
Chelsea aussi, qui ont assuré le coup et qui vont revenir en Champions League parce qu'ils n'y étaient pas l'année dernière. Ça
et
va
ça
leur
fait,
faire du bien
ça,
de
ça
venir
fait
en Champions
les
League.
Dents, en fait, bon. Parce que les Blues, c'est comme on dit, en fait, de base, c'est le top 4 et tout ça de Premier League. En fait. C'est une équipe en fait, qui a de l'histoire, qui la gagne deux fois. Donc, ça va commencer à faire grincer un peu les dents du côté de Londres et tout ça, de Stamford Bridge. Mais c'est bien, en fait. C'est bien aussi, on pourra voir vraiment... le réel niveau en fait de cette équipe de Chelsea, est-ce qu'ils vraiment ils peuvent s'acclimater à la nouvelle formule de la Ligue des Champions, qui n'est plus l'ancienne formule, qui est un peu plus complexe, et pouvoir vraiment ce qu'ils vont proposer. Ça
je pense qu'il
bon
va falloir
test.
Qu'ils se renforcent, hein, parce que s'ils vont comme ça en Ligue des Champions, ils vont pas faire
sur la deuxième partie de saison, c'était assez compliqué quand même. C'est, ils ont de la chance que dans le top 4, y a beaucoup d'équipes qui ont perdu beaucoup
Exactement.
De points. Sinon,
que Aston Villa a été pris par la Ligue des Champions aussi, parce qu'ils ont eu les deux compétitions, etc. Mais à mon avis, ils s'en sortent quand même très bien sur le global.
Merci Maxence. Alexandre, on t'a pas beaucoup entendu, toi, t'en penses pas trop.
Franchement, je pense que tout a été dit. J'ai laissé un peu mes collègues parler, mais City, on les a beaucoup critiqués, mais au final, ils terminent troisième.
Discrètement,
très discrètement.
Une mauvaise saison.
Ouais, en fait, ça reste globalement une mauvaise saison, mais ils réussissent à terminer troisième derrière Liverpool et Arsenal. C'est pas non plus.
Ils ont fait une belle remontada.
Ils ont fait vraiment une bonne remontada, comme tu as dit, discrètement. Mais vous avez parlé de Newcastle, et moi, là, je trouve intéressant, c'est que Newcastle, on sait, ils se sont fait racheter, etc. Et c'est là qu'on voit la différence de compétitivité entre le championnat anglais et les autres championnats, mais surtout le championnat français. Mais je me dis, imaginez un club comme Newcastle se faire acheter en France. Là, ils sont deuxième, voire ils concurrencent Paris. Ouais. Alors que là, ils se bagarrent pour la 5e, 4e place.
Mais ils n'ont pas fait non plus des achats de fou malade. En fait. Tu vois, ils ont pas fait
Oui, et puis parce que le top 5 anglais est déjà hyper riche aussi.
C'est ça que je veux vous dire.
Tu ne peux pas rivaliser en fait, des équipes.
Non, c'est des recrutements intelligents.
C'est l'ogre.
C'est ça que je veux vous dire. Mais imaginez le même effectif et les mêmes recrutements en Ligue 1. La compétitivité.
Après, c'est pas comparable. Tu vois, on parle de première ligue et de la championnat français.
Pas, même, peut-être tu peux titiller le PSG.
Tu peux
bousculer même le PSG jusqu'à
la fin.
Parce
que je pense pas qu'ils ont un meilleur effectif que Monaco. Je sais pas, peut-être équivalent.
Ils ont quand même Isaac devant. C'est meilleur. Newcastle, c'est meilleur que Monaco.
Il y a Tonali, c'est des joueurs de classe mondiale.
Je veux dire, c'est dans le même registre.
Non, je crois pas. Parce que qu'on le veuille ou pas, Newcastle, en fait, c'est une équipe vraiment mythique de l'Angleterre. Dans les années 90, qui est sacrée vraiment, en fait, qui a eu vraiment une période de gloire, en fait, avec Alan Shearer et tout ça. C'est des équipes qui ont marqué, en fait, qui ont une époque à elles.
On parle de maintenant.
Oui, mais ça compte aussi. Mais Monaco ou Marseille en première ligue, ça fait jamais top 5. Hein.
Ça peut pas.
Ça fait jamais top 5.
Non, top 7, top 6, top 7. Hein.
Ça fait jamais top 8, je pense. Je pense que Newcastle est bien au-dessus des poursuivants français.
Non, mais je te parle pas dans la première ligue, je te parle en championnat français.
Merci en tout cas pour la première ligue. Hein. On va se faire une petite pause avant de revenir avec la Serie A. La Serie A, l'Atalanta, qui sont inclinés 3-2, mais ça ne change pas grand-chose pour eux. Mais Parme, qui était déjà aussi sauvé. La Juventus, qui sont imposés 3-2 et qui valident leur ticket, qui termine 4e, avec un but de Randal Kolo Muani aussi, hein, pour son dernier match avec la Juventus. On ne sait pas encore.
Avec Igor Tudor, qui a fait un super passage à la Juve.
Oui, Igor Tudor, oui, qui a fait
super, je sais pas. Mais... Oui, super,
bah, il les a récupérés hors de la zone Ligue des Champions, il les remet dans la zone Ligue
non,
des Champions.
Non, ils y étaient, ou ils étaient à la frontière,
ils
à un point.
Ils étaient
juste à la
frontière.
Ouais, ils étaient à un point, un truc comme ça.
Franchement,
ouais, ça bougeait beaucoup. Ouais, mais oui, mais ça bougeait beaucoup. Il y avait pas, il a pas fait de gros coups, quoi. Ils avaient pas des grosses équipes à jouer où il a fait de gros coups.
Ça m'a pas vraiment marqué comment il jouait la Juve et tout. Enfin, il a pas.
En plus, il a lâché des points aussi.
Il fait 2 points par match en moyenne. C'est plutôt pas dégueu quand tu récupères
en
un effectif.
En 5-6 matchs.
Non, plus que ça, plus que ça.
Bon. Après, on y reviendra de façon. Poussif, hein. On arrive. On y revient juste après la petite pub.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans les locaux de Mon Paris FM, on va commencer avec la Serie A, hein, Atalanta, comme on disait, qui sont inclinés 3-2. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la Scudetto. Antonio Conte avec Lukaku, c'est vraiment la formule gagnante en Serie A. Et tout simplement, ils les ont ramenés jusqu'au bout, hein, avec ce match où McTominay aussi, qui est élu MVP de la Serie A. McTominay, quel joueur, hein. On repense à Manchester United, qui l'ont laissé partir. Tous les joueurs que Manchester United ont laissé partir revivent un peu de l'autre côté. Rashford avec Aston Villa, il revivait un peu avant la blessure. Anthony qui fait une deuxième partie de saison extraordinaire avec Betis, hein. En tout cas, il marque, il est beaucoup décisif et il apporte beaucoup. C'est un joueur transformé. Et là, on voit aussi McTominay qui est MVP de la Serie A. McTominay même qui marquait déjà beaucoup à Manchester United, hein. Voilà. Et donc l'Inter termine deuxième à un petit point du Napoli. Quelles sont vos impressions sur cette journée de Serie A, Salson?
Bon, je t'avoue que je ne l'ai pas suivi celle-là. Je ne l'ai pas suivi, à part le match du Napoli que j'ai suivi un peu de loin.
Jason, il a dû la suivre. Hein. On fait un petit coucou à Jason qui est supporter de l'Inter.
J'avais parlé avec lui quand il a su que c'est Lukaku qui met la balle de break pour le Napoli. Il n'était pas très content. après, voilà, non, mais le championnat italien, en plus, moi, je ne l'ai pas trop suivi cette saison, vu qu'on n'avait pas trop les droits. Là, maintenant, ça se passe en clair un peu sur l'équipe en direct, là, l'équipe 21. Donc, franchement, je ne vais pas dire grand-chose sur ce championnat. Juste que je pense que le Napoli, ils ont été constants. Comme je dis, on l'a suivi par rapport au résultat, pas par rapport au jeu. Le Napoli a été constant jusqu'à la fin. Après, ça a été une belle bataille avec l'Inter de Milan. Maintenant, l'Inter, ils ont fait le boulot. Le Napoli a fait le travail. Et puis, c'est mérité. Et big up à Conte aussi. Qui a réussi à tirer cette équipe.
Conte qui gagne sa 5e Serie A en 6 saisons. Ils avaient perdu, il a perdu avec la Juve, il me semble. Avec la Juve, c'est ça, ou avec l'Inter?
Avec la Juve, sa première année.
Avec la Juve,
après,
sa première année, à un point de différence.
Non, mais il connaît ce championnat-là.
Autant les gagner avec la Juve, tu te dis, bon, c'est fort, mais il avait une équipe
mais
de
Martien à l'époque.
Mais
il avait commencé un cycle,
mais
c'est lui qui a commencé.
Mais là, au Napoli, au début de saison, tu prends leur effectif. Franchement, je pense qu'ils ont même pas top 4 effectifs
avec
Italie.
Avec Kvaratskhelia qui part
en plus, ton meilleur joueur, et tu te retrouves avec des mecs, franchement, c'est des mecs moyens. Tu regardes la compo,
Politano, Raspadori.
Jamais tu te dis que tu vas gagner la Serie avec ça. Pour moi, l'Inter est plus fort. Pour moi, le Milan est plus fort. L'Atalanta est plus fort. De base, sur le papier, si je dois être coach d'une équipe, on me dit, faut que tu dises au début de l'année qui va gagner le championnat. Je mets Milan devant même. Je mets Milan assez devant. Donc, franchement, c'est extraordinaire. Conte, tu lui donnes. C'est pas un mec qui travaille sur le long terme, parce qu'on a vu depuis son expérience à la Juve, il fait une fois. Et il est bien relou avec les présidents.
D'ailleurs, là, ça parle déjà de départ.
Parce qu'il est relou avec les présidents. Enfin, il veut.
Le président Di Laurentiis de Naples.
Lui aussi, il est chiant. Mais lui, tu lui donnes son effectif, tu lui fais venir ses joueurs et il est champion de ton pays. Parce qu'en Angleterre, il l'a fait pareil avec Chelsea aussi. Ouais. Avec un effectif qui n'était pas dingue non plus par rapport aux concurrents. Non, vraiment, c'est trop fort.
Antonio Conte, c'est très très fort. Moi, j'aimerais bien le voir du côté de l'Espagne.
Mais pas sur la scène européenne. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a jamais réussi à faire un gros coup en Ligue des Champions.
C'est pour ça que s'il vient côté espagnol, peut-être qu'avec une équipe.
Et tu le vois où en Espagne, Atlético?
pas le coaching,
c'est plus,
pas
ça pourrait être intéressant.
C'est plus ressemblant. En tout cas, ça,
beaucoup,
lui, ça lui correspond.
Mais on aime beaucoup le cholismo aussi pour l'instant.
Ouais,
mais
le cholismo, ah,
ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, ça arrive.
Il va falloir raviver un peu la flamme du côté de la.
Mais pour le coup, je vois pas beaucoup de coachs qui pourraient prendre la suite de Simeone parce que le costume est très très grand. Mais lui,
il y a que Conte.
Il y en a 2-3 en Europe, mais il y a dont lui.
Même à Séville, ça serait une belle affaire aussi.
Oui, même à Séville, il pourrait.
Oui, à Séville aussi, il pourrait déjà.
Conte, il aime bien avoir de l'argent quand il arrive quelque part pour récupérer ses 4-5 mecs, récupérer son Lukaku, récupérer 2-3 gars qu'il aime bien. À Séville, ça me paraît compliqué.
Et en plus, en fait, là, je voulais rebondir en fait sur ce que tu as dit. Ce jeune entraîneur, pourquoi il n'arrive pas à réussir en Europe? Parce que la plupart des clubs où il passe, en fait, peut-être que les moins sont pas mis à sa disposition comme il le souhaite. En fait, si vraiment il a une armada, en fait, il a de quoi vraiment s'acheter des jouets qu'il faut, je crois qu'il peut réussir. Hein. Si on le laisse dans la continuité, tu imagines que tu as un Antonio Conte, en fait, que pour 2 saisons, 3 saisons.
Mais c'est lui qui veut pas aussi être dans la continuité.
Il peut construire un collectif, en fait.
C'est pas tout le temps les autres qui le virent, hein, parce que là, ils ont aucun intérêt à le virer. C'est lui qui aussi a envie d'autre chose.
En fait,
je crois que
c'est plus un challenger que quelqu'un qui a besoin d'une stabilité.
C'est un one shot. C'est un mec de one shot.
Voilà, c'est un mec, en fait, qui veut être ici, qui veut être là, il veut être un peu partout à la fois. C'est un peu compliqué, en fait, quand c'est comme ça, de perdurer dans les espoirs.
McTominay, hein, qui a réalisé une saison formidable aussi. Hein. McTominay, en fait, on le voyait même côté Manchester United, c'est lui qui sauvait les pots dans les dernières minutes. Souvent, hein, on regarde
avec
en tout cas,
Eric Ten Hag.
Avec Eric Ten Hag, qu'on va parler d'ailleurs de Eric Ten Hag juste après. Mais voilà, en tout cas, Naples, le Napoli l'ont fait au détriment de l'Inter, hein, qui sont imposés aussi 2-0, mais ça n'aura pas suffi. Et la Lazio Rome qui font le mauvais coup, hein, qui perdent contre Lecce 1-0 et qui joueront aucune compétition européenne, si je ne me trompe
ils
pas.
Ils sont 7e.
Voilà.
7e, la Lazio Rome, vraiment, c'est.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, Alexandre?
Mais, franchement, cette année, c'est vrai qu'on n'a pas pu bien suivre la Serie A parce qu'au niveau des droits, c'était un peu compliqué.
Ouais.
Mais en tout cas, pour avoir suivi de loin ou même des fois avoir vu des matchs de Serie A, c'était quand même une année, une très belle saison, même je dirais, de Serie A.
Je crois qu'on a raté une belle saison par rapport aux autres années
précédentes. Exactement. On a vraiment raté une belle saison.
Parce que ça soit en bas de tableau ou haut de tableau, il y avait du challenge.
Et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a déjà la saison complètement ratée de l'AC Milan, déjà. Il y a la saison de la Juventus qui est en renouveau. Il y a aussi, et en plus, parce qu'il faut dire que la Juventus, ils ont commencé avec Thiago Motta, ça s'est mal terminé, ça s'est mal passé, ils ont pris Igor Tudor. Il y a la saison de Bologne qui mine de rien, continue de petit à petit de gravir les échelons, c'est ça que je cherchais. L'Atalanta qui est toujours là, l'AS Roma qui aussi revient petit à petit, mais il y a surtout le mano à mano entre l'Inter et Naples. Mais pour moi, il ne faut vraiment pas du tout sous-estimer ce qu'est en train de faire Naples, parce qu'il ne faut pas oublier que Naples, c'est un club qui, avant le titre là, avec Léo Simen, etc., ça faisait, je crois, 30 ans qu'ils n'avaient pas gagné de titre.
De Scudetto.
Scudetto. Mmh. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un club en fait, qui n'est pas programmé pour gagner autant de Scudetti d'affilée. Donc franchement, bravo à Naples. Et c'est sûr que ce n'était pas l'équipe que j'aurais donnée au départ, parce que l'Inter de Milan, ils ont un effectif qui est vraiment meilleur. Mais attention à l'Inter, parce que là, ils peuvent tout perdre en vraiment une semaine. Parce qu'ils ont perdu la Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Italie. Et là, ils ont perdu le titre, ça s'est joué de peu. Et ils peuvent perdre la finale de la Ligue des Champions. Donc ça peut vraiment se jouer de peu.
En général, tous les malheurs se suivent.
Hein. Voilà. Oui, comme là, Romain, tu me dis, je crois que Romain, en fait, je crois que la perte du titre, ça peut plus, ça va beaucoup les affecter. Mais peut-être une Zaghi aussi, c'est quelqu'un vraiment qui prépare un peu ses joueurs comme des commandos. En fait, voilà, il faut être fixé en un objectif et tout. Donc du coup, pour ne pas vraiment qu'il se chie là-dessus ou se pisse là-dessus, il va falloir qu'il puisse remonter automatiquement en fait, le moral de cette...
On va faire attention quand même au langage.
Ouais, le moral de cette troupe, désolé si c'est un peu vexant, le moral de cette troupe pour ne pas vraiment en fait, aller dans cette spirale-là en fait, qui sera vraiment en fait, très mauvaise vraiment pour les tifosi et tout ça.
Après, il ne faut pas oublier la
pour
blessure.
Pour les supporters niazuriens.
Je suis d'accord avec toi, mais il ne faut pas oublier la blessure de Lautaro sur les tout derniers matchs, là, après la confrontation face à Barcelone.
Oui, ils ont pété des ponts aussi.
Qui,
hein.
qui a quand même assez impacté l'Inter.
Après, l'Inter, ça fait un petit moment qu'ils savent que le Scudetto n'est plus entre leurs mains. Du moins qu'ils n'ont plus leur destin en main là-dessus. Ça fait 3 ou 4 journées que Naples est devant. clairement, leur priorité, c'est la Ligue des Champions. Ils ont gagné la Serie A l'an dernier. C'est quelque chose, voilà, les supporters, ils ont l'habitude de gagner tifosi. Des Serie A, des coupes, etc. Leur objectif, c'est vraiment la Ligue des Champions. J'étais sur un match de l'Inter en Serie A il y a 3 semaines, 1 mois, au stade. Oui. Franchement, c'était nul. Mais parce que les mecs s'en foutaient. Enfin, on voyait qu'ils étaient tranquilles. Même, tu vois, la compo qu'il met sur le dernier match de championnat, ouais. Il envoie toute son équipe B. Parce qu'ils savent, nous, on a la vision franco-française de le PSG fait une grosse saison, le PSG mérite la Ligue des Champions, etc. Mais quand t'es interiste et quand t'es italien au global, l'Inter, ça fait des années qu'ils bossent avec cette équipe-là. L'équipe qui est vieillissante, ils sont en fin de projet. Le PSG est au début d'un projet avec des jeunes joueurs, etc. L'Inter est en fin de projet.
Ils sont en fin de cycle.
Fin de cycle. Ils ont fait leur finale perdue de peu contre City, etc. Avec des loupés. Et là, ils sont sur la fin de cycle avec Acerbi, avec Bastoni, avec Calhanoglu Mkhitaryan au milieu.
Il est jeune, quand même.
Lautaro. Oui, non, bien sûr, Bastoni, il est jeune. Mais je veux dire, c'est un projet qui est durable. Les mecs, ils sont là depuis 3, 4, 5, 6 ans. Et ça bosse. Et Inzaghi, il finit son cycle aussi en tant qu'entraîneur.
Tu penses qu'il va partir si là, il perd.
Que ça gagne ou que ça perd, il part.
Inzaghi ?
Ouais, je pense que c'est la fin de quelque chose.
Mais il est dans la régularité pour moi. Je crois que c'est l'entraîneur qu'il faut à cette équipe, en fait. Un peu dans le sillage, un peu de Conte, la même manière.
Mais il pourra pas faire mieux. L'année prochaine, avec le même effectif et les mecs qui auront pris un an de plus, il pourra pas faire mieux que ce qu'il a fait là.
Mais ils seront obligés de rajeunir un peu son effectif. Parce qu'on sait tous que les équipes italiennes, en fait, ils piochent le plus souvent dans des équipes de bas tableau, des équipes un peu comme Bologne, comme Lecce, comme Sassuolo. Ils ont des joueurs en fait atypiques qui partent chercher là-bas avec de l'expérience pour construire encore en fait des joueurs de 25, 26 ans qui sont un peu dans cette trame d'âge pour construire encore du solide pour des années futures.
Mais
ça
je pense que
comme ça,
autant tu me dis le PSG perd la finale de Ligue des Champions, ils peuvent rebondir dans 1, 2, 3 ans et y retourner. Autant l'Inter la perd, pour moi, c'est tout ou rien.
Ouais, mais je pense que tu disais pareil il y a 2 ans, justement, quand ils ont
perdu,
ils sont sortis contre City. Ouais. Ouais. En plus, avec le départ de Lukaku, en plus, etc. Ouais. Onana aussi qui est parti. Enfin, bref, voilà. Ouais. Tu peux au final, ils se sont renouvelés.
Ouais, c'est possible, mais on était au début.
Ils ont récupéré Marcus Thuram.
C'était la première saison.
Tu sais où Marcus Thuram, il l'a récupéré, ça fait que 2 ans, Marcus.
Ouais,
ça fait 2 ans.
En fait, dès que Lukaku est parti.
Deuxième saison.
Et là, j'ai quelque chose à ajouter.
Où
en fait,
la saison d'avant, alors
il était à l'AS Rome,
non.
Il était à Rome et tout ça. En fait, il y a un truc que je voulais rajouter. Le truc que je voulais rajouter, c'est quoi? C'est qu'Inzaghi, c'est quelqu'un en fait qui est en fait, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui travaille en fait, qui est minutieux dans son travail. Quand on regarde vraiment ses choix tactiques et tout ça, même le recrutement, c'est-à-dire quand il paie une pièce de son puzzle, automatiquement, il le remplace par les profils un peu similaires et tout. Et en fait, ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses en fait, de façon désordonnée ou un peu de façon hasardeuse. En fait. C'est un travail qui est abattu, en fait. C'est-à-dire qui est abattu il est un peu dans les petits papiers, comme à renouveler peut-être assez bien. Déjà, il y a des profils qui sont déjà pistés, en fait, tu vois. Et l'Inter, c'est une équipe qui a des moyens. Mais je crois que ça serait mieux pour qu'il garde Simone Inzaghi pour pourquoi pas essayer de perdurer dans
On verra, mais moi je pense que c'est terminé l'année prochaine pour Inzaghi.
Merci messieurs. En tout cas, voilà Naples qui gagne la Scudetto et qui font la fête d'ailleurs à Naples hein, avec Antonio Conte qui est déjà annoncé de partir, en tout cas c'est déjà annoncé qu'il va s'en aller quoi qu'il arrive en tout cas voilà, on a pu assister à une bonne saison en Serie A en tout cas, on va enchaîner avec la Liga bien évidemment, le Barcelone qui sont imposés 3-0 au stade San Mamés face à une équipe Atlético Bilbao tout simplement impuissante hein. Le Real Madrid qui sont imposés 2-0 face à la Real Sociedad grâce à un doublé de Kylian Mbappé hein, élu tout simplement Pichichi de la Liga et bien évidemment Soulier d'or, on y revient juste après, et en tout cas le meilleur buteur des 5 grands championnats en championnat en tout cas voilà, on va parler aussi notamment des larmes de Carlo Ancelotti, on a perdu 2 grandes légendes qui s'en vont en tout cas pour l'instant quitteront le Real Madrid, en tout cas Carlo Ancelotti qui est déjà autre part, on y revient juste après. Thank you. Carlo Ancelotti présenté aujourd'hui du côté du Brésil, hein, de la Seleção, qui a pris son poste aujourd'hui et qui a fait d'ailleurs sa première liste. On y reviendra juste après. Le Barcelone qui sont imposés pour leur dernière journée de Liga, 3-0, un match qui ne comptait pas, mais dont Lewandowski avait voulu marquer aussi et a mis son doublé dans ce match-là. Mais ça n'aura pas suffi pour être Pichichi cette saison, puisque Kylian Mbappé l'a répondu aussi avec un doublé de l'autre côté avec le Real Madrid, Luka Modric, fin de cycle, Ancelotti, fin de cycle, et Lucas Vázquez apparemment aussi, qui est un truc qui ne va pas être prolongé, donc je pense qu'il va partir gratuitement. Atlético de Madrid, la surprise, hein, le triplé de Sorloth, ça n'est même plus une surprise, hein, Sorloth qui rentre en jeu et qui claque un triplé.
Il marque pas souvent, mais il met par 3 ou par 4, lui.
Ouais. Oh, bah, il marque, hein, quand même, il marque souvent, à chaque fois qu'il rentre.
Non, c'est des lots qu'il envoie.
Mais il envoie dernièrement, il
fait des prix de gros.
Dernièrement, il a envoyé des lots, 4, 3, il envoie en ce moment, et moi aussi, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette question, Atlético de Madrid qui sont imposés, qui sont troisième, mais Sorloth, quand on voit l'apport qu'il fait dans le jeu, est-ce que ça devrait pas être le titulaire indiscutable à la place d'Antoine Griezmann qui a du mal à mettre un pied devant l'autre
Après, c'est
avec,
une histoire de profil,
l'Atlético
c'est
de
ça.
Oui, même en histoire de profil, en tout cas, on voit que Alvarez et Sorloth, ça tombe beaucoup
ça
mieux. Alvarez peut tourner autour de Sorloth.
Il faut donner les clés du camion à Alvarez. C'est pour ça que moi, je l'avais dit ici la semaine dernière, je crois, j'avais pas compris pourquoi Antoine Griezmann y avait prolongé. Bon, il veut se faire un kiff, sans doute encore une dernière saison, mais.
Oui, parce avoir que, quelques records,
si...
quoi, les buts.
Voilà, sans doute, ou les apparitions ou quoi. Mais je ne sais pas si vous avez un peu vu sa saison, mais elle est vraiment très très compliquée.
Surtout la deuxième partie.
La deuxième partie est très moyenne.
La première partie, c'était, enfin surtout au début, c'était plutôt pas mal. Mais
c'était bon même.
Oui, c'était bon, mais après il s'est complètement éteint. Et de toute façon, pour moi, il faut un renouveau à l'Atlético de Madrid. Et je pense qu'il faudrait vraiment donner les clés du camion à Alvarez, parce que c'est vraiment un excellent, excellent, excellent joueur. Et par contre, oui, si tu veux mettre Sorloth, c'est sûr qu'il faut sortir Antoine Griezmann du 11. Mais je pense que c'est les plans de Simeone. En vrai, finalement, c'est dans la continuité. Même, on l'a vu, il sortait souvent, Antoine Griezmann. Il sortait souvent à la 60, 65e. Donc, je pense que c'est un peu la suite logique.
Parce que Griezmann, il joue aussi 6, 8, 10 à la fois. Il aime bien ça, Simeone, avoir un mec qui est un peu partout. Et Sorloth ne peut pas remplir ce rôle-là.
Mais là, dans
et
les
Alvarez
derniers matchs,
se gâcherait. Alvarez se gâcherait à jouer comme ça. Donc, avec un autre coach, je te dirais, Alvarez-Sorloth, il faut les associer, il faut créer quelque chose autour de deux. Mais il faudrait avoir des mecs sur les côtés qui débordent, qui donnent des ballons
là,
aussi.
C'est déjà un peu le cas.
Avoir des 8 créateurs. L'Atlético, c'est quand même compliqué au niveau du jeu proposé, je trouve.
Ah non, je ne suis pas d'accord. Les joueurs, ils peuvent très bien proposer du jeu.
Ah, mais ce n'est pas les joueurs. Mais c'est la mentalité.
C'est l'animation offensive, le problème.
Le cholismo, comme on disait.
Oui,
c'est l'animation qui est donnée depuis des années. Ça ne va pas changer demain.
T'as un Pablo Barrios, t'as un Marcos Llorente dans les
bons
jours.
C'est des bons joueurs individuellement.
On a pu voir en tout cas Sorloth, hein, 20 buts quand même, un quatrième de la Liga, hein, 20 buts quand même, c'est énorme.
Énorme
en tant que
remplaçant, ouais.
c'est énorme. En plus, il a été Pichichi l'année dernière, il me semble.
Non, c'était pas Dobvik.
Non,
c'était Dobvik.
L'année dernière, c'était Dobvik.
C'est Dobvik alors.
De Giroud.
Il me semblait que c'était Sorloth, mais c'était Dobvik. Ouais,
peut-être
l'année dernière. Non, l'année dernière, c'était Lewandowski.
Ouais, il me semble que c'est.
Il
n'y avait
pas Dobvik l'année dernière dans l'idée.
En tout cas, Sorloth, pour moi, il n'a pas été Pichichi, je crois.
Non, Sorloth, non, j'ai pas
non,
en tête.
Mais en tout cas, Sorloth était pas loin. En tout cas, je sais qu'il a souvent fini dans le top 3, 4.
Ah, toujours, c'est un bon
temps.
Attaquant Sorloth, de Liga, franchement.
C'est pour, ça que moi, ça m'étonne quand même que Sorloth ne soit pas titulaire dans cette équipe. Qu'est-ce que tu en as pensé du match du Barça qui sont imposés 3 buts?
Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'était le dernier match de la saison, donc il y a eu l'hommage à De Marcos, le joueur de Bilbao. Mais bon, après, une équipe de Bilbao qui était un peu en vacances, hein, je pense, parce que normalement, ils proposent toujours beaucoup plus d'adversité, surtout quand c'est à San Mamés. Après, Nico Williams, ça fait vraiment un bon match, peut-être qu'il voulait se montrer, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'équipe du Barça, vraiment, je ne sais pas si vous avez vu, mais des records. Hein.
Ouais.
Il y a eu le... centième, c'était Dobvik de Gérard. Mais il y a eu des records, c'est l'une des saisons les plus prolifiques de l'histoire de Barcelone, derrière 2014-2015 et la fameuse 2011-2012 avec Messi qui marque les 73 buts. Mais c'est pour dire, il y a eu, je crois, 174 buts, toutes compétitions confondues pour le Barça, c'est énorme. Il y a eu 102 buts en Liga, Lewandowski il a marqué son centième but avec Barcelone aussi.
100 buts.
Et c'est le meilleur ratio d'ailleurs, le premier joueur à avoir atteint les 100 buts en 147 matchs, donc c'est le meilleur ratio. Donc franchement, Barcelone, c'est une énorme décrié, saison. Hein. Ouais, il est décrié, parce qu'il rate énormément. Barça. Mais mine de rien, il a quand même,
il a
quand même beaucoup marqué. Et après Mbappé, franchement, on en parlait avec Stéphane tout à l'heure, mais force est de constater qu'il fait une très bonne deuxième partie de saison en vrai Mbappé. Enfin, c'est lui, hein, parce que sans lui, en vrai, le Real, il marque quand même des buts assez importants.
Même à la quatrième place, je suis.
Mais bon, après, tu peux aussi voir le prisme que Stéphane il refuse d'admettre, mais tu peux aussi voir le prisme inverse, à savoir qu'il a peut-être totalement déréglé finalement le jeu collectif du Real.
C'est bizarre, il ne brille que quand c'est le marasme, Mbappé. Tous les ans, on dit ça. Au PSG, on disait déjà, oh là là, sans Mbappé, qu'est-ce qu'il ferait? Ça serait dur, nanana. C'est lui qui les emmène en demi-finale, c'est lui qui les emmène en quart. Sans lui, ça sortirait pas des poules. Sans lui, machin. Première saison sans lui, on voit ce que ça donne. Et le Real, avant lui, on voyait à peu près ce que ça donnait de temps en temps. Il y a eu quelques Ligues des Champions qui ont été ramassées. Et là, avec lui, c'est le marasme. Donc, on va pas faire de lien de cause à effet. C'est pas que le fautif. Mais c'est un joueur qui, de par son profil,
il absorbe.
Il brille dans des contextes dans l'obscurité. Dans l'obscurité.
Ouais, parce c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive. En fait, il a un témoin, un aura et tout ça.
Et puis, il n'arrive pas à se fondre dans un collectif dans qui masse, fonctionne, masse, qui ouais. tourne. Moi, quand on me dit, oh, Mbappé, tu le mets au Barça, il flamberait aussi. Mbappé, il ne flamberait pas au Barça. Dans le caractère collectif de cette équipe.
Si, il flamberait au Barça.
Il flamberait parce que t'as Yamal, t'as Rafinha.
Tu mets à la place de Rafinha.
T'as Lamal, Brennan, Barrett.
Quand il dit les efforts que fait Rafinha dans un match, vous voyez les efforts.
Je les vois très bien, les efforts.
Je les vois, mais même s'il les fait pas Mbappé et avec le Barça.
T'inquiète pas.
On verra avec Xabi Alonso l'année prochaine. Il va devoir courir un petit peu.
Oui, ça, il le sait.
Et ça va le sortir. Il n'a jamais, depuis Monaco 2016, il a jamais été dans une équipe qui fonctionnait collectivement. Il était toujours le plus un d'un, on dirait une classe d'école de perturbateurs, de mecs qui foutent rien. Lui, il est perturbe, mais il a des qualités, donc il est fort. Et il sort par ses qualités individuelles. Mais c'est jamais dans un projet collectif. Et en équipe de France, c'est pareil. Hein. Les fois où il a brillé avec Deschamps, et ça arrangeait bien Deschamps, c'est dans un projet collectif qui ne fonctionne pas.
2018, Mbappé, quand il arrive, il y a déjà des cadres qui sont là, t'as un Griezmann, t'as un Pogba.
Et le projet collectif, c'était quoi? Vas-y, Pogba, essaye de faire une transversale de 50 mètres pour Mbappé, il va courir.
Maxence,
c'était ça le projet
Maxence,
collectif.
J'aurais pu te rejoindre, mais en fait, ce qui a plombé Mbappé ces dernières saisons, c'est surtout, je pense, son extra-sportif, en fait.
Son comportement sans ballon, c'est pas possible, les gars.
Moi, c'est pas que ça. Mbappé, on peut dire tout ce qu'on veut. Mbappé, pour moi, ça reste fort. Dans tous les tirs, c'est un buteur.
Bien sûr.
C'est fort, mais il faut qu'il joue avec ses qualités.
Ça, on peut pas lui enlever. Mais quand il arrive au Real Madrid, désolé, il a déséquilibré cette équipe-là. Parce que quand il est dans les matchs, dans les buts, dans les stats, tu peux pas parler avec lui. Ça, il y a rien à dire.
Mais c'est un sketch,
jusqu'à 35 ans, il va les mettre, ses buts, de toute façon.
Là, on parle de jeu.
Au début, c'était un sketch.
Quand tu parles de football, ce mec-là déséquilibre une équipe. Quand tu regardes les matchs, je suis désolé, il apporte rien dans le jeu. Il est même perdu. Parce que là, dans l'axe.
Et sans ballon, c'est un poids. Un mec qui fait 6 km dans un match, c'est pas possible. Ça n'existe pas.
Ouais, au football moderne, ce minimum.
Ça n'existe pas.
8 à 10 km, en fait, de course.
T'es dans le minimum, là. 8 à 10, t'es dans le.
Il y a d'autres qui vont à 12, même à 13 km.
C'est pour ça. Faisons comparer avec Rafinha, qui est un joueur beaucoup moins fort. Rafinha, il est à 12, 13 km par match. Mais tout ce qu'il en mange pour l'équilibre de l'équipe. Pour les ballons qui
mais
sont récupérés,
il est obligé de le faire parce qu'il n'a pas le talent de Kylian.
Bien sûr.
Oui, mais Rafinha, il compense son talent à travers les efforts. En fait.
Mbappé, pour gagner, il va être obligé de le faire.
Oui, à un moment donné, il va falloir le sacrifice pour l'équilibre. Comme il a dit Salé tout à l'heure, Salson, dans une équipe vraiment à fort collectif, il va falloir que le leader aussi fasse aussi des sacrifices, des replis défensifs énormes et tout ça. Il va falloir qu'il s'acclimate.
Je vais juste te couper. On va arrêter de faire les footics, arrêter de parler statistiques et regarder le fond du jeu. Dans le jeu, quand tu regardes les matchs du Real Madrid, je suis désolé, un Vinicius, t'as pas l'impression qu'il est à sa place parce que Mbappé, qu'est-ce qu'il fait automatiquement?
Il dézone.
Des fois, ils sont à deux sur le même côté. Ça
mourir
de rire.
Repiquer dans l'axe. Mais ça gêne Vinicius de revenir dans l'axe. Ça se voit que ça le saoule. Et t'as un Bellingham, je suis désolé, quand tu vois les matchs qu'il fait la saison dernière et maintenant les matchs d'aujourd'hui, t'as l'impression qu'il est gêné, qu'il n'est pas à l'aise. Et en fait, le placement d'Mbappé, ça crée un déséquilibre.
Après, est-ce que ça, c'est que de la faute de Mbappé?
Non, c'est pas de la faute de Mbappé. Ah non, attention, moi, j'ai toujours dit, est-ce que les dirigeants ont fait
de sa faute?
Il
a 27 ans, le mec. Non, on a fait des collectifs.
Pour le défoncer, t'inquiète pas, on est là pour le défoncer.
On parle dans le sens, même s'il fait les choses bien, le fait son positionnement il est gênant pour l'équipe, donc ça crée un déséquilibre.
Mais déjà, mais le fait de l'avoir pris, c'est un problème pour
l'équipe. La faute aux dirigeants, est-ce qu'ils ont calculé, est-ce qu'ils ont fait le bon choix Parce que Mbappé, depuis le départ, il le dit, il ne veut pas jouer en 9. Mais quand il arrive au Real Madrid, t'es obligé de le faire jouer 9. Tu veux pas faire sauter Vinicius.
Et au final, il joue même pas 9.
Au final, il joue pas 9. Il se balade.
Il joue 9 et demi,
même. Il va gêner un Vinicius qui lui fait une saison de malade la saison dernière.
Ah, ça l'a plombé, Vinicius.
Ça l'a plombé.
Le ballon d'or, Mbappé, ça l'a tué.
Mbappé, faut arrêter. C'est pas, je dis pas que c'est la faute à Mbappé. Mais je dis pas que c'est la faute à Mbappé. Mais Mbappé, faut jouer pour lui, malheureusement.
La vérité, c'est que demain, t'es directeur sportif. On te dit, faut que t'aies Mbappé dans ton équipe. La manière de le faire briller, c'est dans un collectif qui ne fonctionne pas et d'avoir devant les exploits de Kylian.
Ah bah comme non, n'importe bah là, quel, vu, je suis pas d'accord avec toi.
N'importe quel entraîneur de N2, N3 pourrait te les mettre en place. Tu veux créer un projet collectif comme le Liverpool de Slot, le Liverpool de Klopp anciennement, comme Guardiola à City,
comme le PSG, comme
Hansi Flick, comme Luis Enrique, tu ne peux pas le faire avec Kylian Mbappé qui court 6 km par match. C'est impossible.
Arrête,
le faire, mais regardez Luis Enrique.
Mais faire quoi?
Il n'a pas réussi avec Mbappé.
Luis Enrique, il était contre le départ de Kylian.
C'était politique, ça.
Non, c'était pas politique.
Il le mettait à l'amende en 1-1.
Il n'a pas réussi, t'as dit.
Un entraîneur de la trempe de Luis Enrique.
Enrique, il n'a pas réussi à mettre sa patte comme il l'a mis cette année.
Demi-finale de Ligue des Champions.
Déjà, ça, avec les 6. Non, mais en fait, c'est trop facile.
Vous voyez pas de différence entre PSG et Stanley?
Mais bien sûr que si. Mais en fait, c'est juste que tu peux pas, en fait c'est trop facile de dire ça. L'année dernière, c'était la première saison de Luis Enrique, il avait peut-être pas tous les éléments en place, il a tenté beaucoup de choses et en attendant il fait finale de LDC et il remporte tout sur la scène nationale.
Non, on te dit, il a pas réussi avec Mbappé, on n'a pas dit il a réussi avec le PSG, il a pas réussi à mettre Mbappé dans son projet.
Mais tu penses que Mbappé cette année au PSG, le PSG fait la même saison? Moi je suis persuadé que non. Quand tu vois les efforts que font Barcola sur les côtés, Vara il vient défendre comme un arrière gauche, les mecs ils courent tous les uns pour les autres.
Mbappé, je l'ai défoncé, je suis peut-être celui qui est le plus défoncé dans cette émission des centaines de
parce
fois.
Que j'étais pas là.
Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout le temps le premier responsable. Et là où je suis pas d'accord avec toi, c'est de fait de dire oui, en fait, il marche que dans une équipe. Non, il déséquilibre, ça, je suis d'accord, parce qu'il faut vraiment un projet de jeu qui soit autour de lui. Mais je suis pas d'accord pour dire que il faut qu'il soit dans une équipe qui marche pas. Pour moi, s'il est dans un excellent collectif, avec des gens qui font les efforts, et bah lui, il sublimera le collectif, il marquera.
Mais parce que lui, il les fera pas les efforts.
Non, le problème, il n'y a pas que Mbappé.
Ouais, mais
en fait.
Est-ce que c'est le seul joueur de l'histoire à ne pas faire les efforts défensifs?
Il y en a eu deux globalement.
Il n'est pas le seul. Il y a Mbappé, il y a Vinicius qui ne les fait pas en fait.
Dans le foot moderne, tu as eu Messi, Ronaldo.
Bah, Messi, Ronaldo.
Sur les 15 dernières années.
Mais avant, même.
Bah, avant, t'as eu Maradona, mais c'était le foot d'avant, les gars. Et Maradona avait d'autres qualités que Mbappé, balle au pied, quand même.
Je pense à Neymar, Neymar, il les faisait peut-être un peu plus, un poil plus, mais je pense à Neymar, je pense à Eden Hazard.
Le Neymar de Barcelone,
je pense à Gareth Bale,
Neymar de Barcelone faisait les replis, et bizarrement, c'est la seule Ligue des Champions qu'il a prise.
Ouais, parce que t'étais obligé.
Parce qu'il n'avait pas le choix.
T'avais le boss, Léo, qui était là, t'avais des mecs comme Iniesta.
Il a toujours eu le choix.
Non, je pense pas.
Il a jamais fait les bons.
Non, juste que comme là avec Alain Ancelotti, auquel on a remercié de façon honoureuse et tout ça. Et là, il y a un nouveau entraîneur, Xabi Alonso, en fait, qui est en fait pour lui, vraiment, les efforts comptent énormément. Vu vraiment la tactique.
On a toujours dit ça toute la carrière de Mbappé. On a dit Emery, il fait les efforts, mais vous inquiétez pas, Tourelle va arriver. Tourelle est arrivé. Ah non, c'est toujours pas bon. Ok, bon, après, il y a eu l'épisode de Pochettino, Galtier. Il en a eu des coachs quand même. Luis Enrique, Ancelotti. Ça fait 6 coachs en club.
Non, mais là, vraiment, avec Xabi Alonso, je crois que le problème va se régler parce que tout est dans la discussion aussi. Parce qu'en fait, il n'y a pas que Mbappé qui en fait, il y a Vinicius aussi déjà qui fait moins d'efforts.
Ouais,
déjà.
Vinicius les faisait l'an dernier, il ne les fait plus maintenant.
Oui, qui fait moins d'efforts.
Parce que Mbappé ne les fait pas.
Oui, parce qu'on sait tous, parce qu'il y a Mobutu qui est là, c'est normal. Ben. Quand tu as Mobutu vraiment dans ton équipe, qui en fait. Qu'on le veut ou pas, en fait, qui veut diriger, c'est un peu comme ça. Donc,
mais c'est humain. Vinicius, il a gagné avec des champions en étant le crack de l'équipe. C'était lui le numéro 1. Il voit un mec arriver qui défend pas. Il se dit, mais attends, moi j'ai déjà.
Si je suis Vinicius, je me bats. Ouais,
je reviens pas. Mais moi je vais dire, tu fais pas les replis, moi non plus, t'inquiète pas, je vais attendre la carotte. Bien gentil, Vinicius, parce qu'il a lâché les pénaux. Vinicius, il passe en numéro 2.
Il avait pas le choix de lâcher les pénaux, parce qu'en vue de comment il est tiré aussi.
Ouais, Mbappé, on a raté aussi quelques-uns.
Oui, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, dans la maîtrise de tirer les pénaux,
il a mieux que Vinicius en fait.
Mbappé, il en a tiré beaucoup plus quand même.
Ouais, ouais, mais ils sont
plus importants.
Et là, c'est quand même gentil. Il y a des mecs qui ont moins de recul que ça.
Il n'a pas le choix.
Je suis Vinicius, je me bats, moi, perso.
Et même parce que pour moi, même, c'était acté quand je le vois prendre le penalty contre je ne sais plus qui. Et il l'envoie.
L'Atlético de Madrid.
Ouais, il l'envoie en 7e tribune. Je sais pas, mais. Voilà.
Normalement, ça devait déjà être justifié. Atlético,
je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire.
Il a continué à l'avoir après, tu vois.
Moi, pour moi, le meilleur tireur là-bas, pour l'instant, c'est Bellingham.
C'est Bellingham.
Même s'il en a loupé un, tu vois qu'il a la technique de tirer les ballons.
Et il est mieux, en fait.
Il est mieux.
Mais à un moment donné, en fait, Même depuis le début du mercato, ils tous savaient que la tête de gondole serait Mbappé, serait Kylian. Donc il y a un moment donné, quand tu arrives d'investir comme ça, ça peut un peu plomber le moral.
Mais quel message, excuse-moi, le message, là, tu dis sur la tête de gondole, tu le mets en avant, tout ce qui en suit. Quel message t'envoies aux joueurs qui ont gagné?
Non, mais catastrophique le message.
Elle est catastrophique.
Non, mais là,
donc tu peux pas, tu c'est une erreur de recrutement dès le départ.
Donc tu peux pas t'étonner que le Real Madrid a ce niveau-là.
Dans ton collectif, normalement,
c'était prévisible, on l'a tous dit.
Non, dans ton collectif, qu'on le veuille ou pas. Même là,
à l'Inter qui sort du lot.
À l'Inter en ce moment, c'est la Taro en fait.
Bah, ça peut être Thuram aussi dans certains matchs. Ça peut être Kayanoglu, Mkhitaryan.
Tu sais très bien, c'est la Taro qui sort du lot.
Non, en vrai, c'est la Taro qui sort du lot. Qu'on le veuille ou pas, quand la Taro il est mal, quand la Taro il est mal, ça se ressent si l'équipe en fait. Oui, parce que là, à la fin de saison, il perd le Scudetto. Depuis la blessure de la Taro, c'est que des déboires, c'est des contre-performances. Donc, à un moment donné, en fait, qu'on le veuille ou pas, dans tout collectif, il y a quelqu'un qui sort du lot, en fait. Ça, c'est des choses qui sont humaines. Voilà, c'est des choses.
Ça, c'est la lecture football de l'époque Messi-Ronaldo où t'avais un mec au-dessus. Il y a plein d'équipes qui gagnaient avant Messi-Ronaldo, il n'y avait pas ce joueur.
Non, ça n'a rien à voir.
T'as plein de clubs qui gagnent sans avoir ce joueur.
On va clôturer le débat.
Même le Liverpool de Klopp, on avait ça là qui sortait du lot.
S'il te plaît. Merci. On va clôturer le débat hein, parce qu'il nous reste encore des sujets à traiter. Xabi Alonso qui arrive du côté du Real, on ne l'a pas trop énoncé. Luka Modric qui prend sa retraite. Un petit mot pour Luka, un petit mot pour Ancelotti aussi et pourquoi pas.
Moi, vous savez ce que je pense d'Ancelotti, mais en tout cas. D'ailleurs, j'ai vu qu'il a fait sa. Pour moi, Ancelotti. Je ne vais pas me faire des amis, mais il est extrêmement surcoté en tant que,
non, moi je crois
en
pas.
En tant qu'entraîneur. Mais bon, après
c'est mon avis. Surcoté,
t'es dur. C'est mon avis. Après, franchement, je respecte, il n'y a pas de souci.
C'est pas un entraîneur qui va nous faire rêver.
C'est un
dans
grand
le jeu.
Manager, mais
c'est
moi,
pas,
c'est
pas
un.
Non,
c'est pas un tacticien.
Vu son palmarès, vu ce qu'il fait.
Niveau tacticien, t'es dur aussi.
Ah, moi, j'aime
bien. Je te dis pas que c'est un mec qui va te faire.
Si tu te bases sur cette saison, bien sûr que tu vas dire ça. Mais quand moi, je le voyais au Paris Saint-Germain, il proposait du beau jeu. Quand il était du côté de Milan, il proposait du beau jeu.
Même à Chelsea,
à Chelsea, il proposait du beau jeu. Il est arrivé même au Real Madrid, ses premières saisons.
La décima qu'il a gagnée, c'est Ancelotti. C'est lui qui l'a fait passer un palier.
Non, je suis désolé.
Je suis pas 100% d'accord.
Après, mais tout au long de sa carrière, tu ne peux pas ne pas proposer. Tu ne peux pas être un bon tacticien. C'est impossible que tu ne sois pas un bon tacticien et que tu gagnes autant de trophées. C'est impossible.
Non, je ne crois pas.
Excuse-moi, mais c'est
dans la continuité et tout ça.
Bien sûr que si. Tu peux être un très bon manager d'homme. Tu peux être un très bon manager.
Même grand si
manager.
Zidane, c'est un bon tacticien.
Zidane, c'est un bon tacticien.
Non, c'est
pas. Deschamps a beaucoup gagné, c'est pas un grand tacticien, Deschamps.
Bah oui.
C'est pas un grand tacticien.
Mais Deschamps n'a pas le palmarès d'Ancelotti.
Faut pas oublier l'AS Monaco, Marseille, etc. Non.
Mais ils sont déjà, faudrait définir ce qu'est le mot tacticien.
De quelle idée vous avez de.
Voilà.
Il faudrait définir ce qu'est le mot tacticien.
C'est pas des entraîneurs qui vont te faire rêver dans le jeu.
Ouais, en tout cas, moi, il me fait pas du tout. Vraiment pas. Même le personnage, je l'aime pas et cette année, il m'a.
Voilà, peut-être que tu l'aimes pas. Tu peux pas aimer Carlos.
Quand tu vois tout ce qu'il a fait sur le banc du Real cette année,
quand tu connais toutes les histoires là, que les joueurs disent de lui, etc., c'est compliqué de dire que tu l'aimes pas.
Moi, je pense pour le coup, il ne faut pas le juger cette saison parce que non, ça a quand même toujours été globalement la classe.
Bah oui,
il a toujours.
Bah
après, cette année, c'est vrai qu'il est tombé avec les autres. C'est-à-dire que.
Il est à l'image du Real Madrid.
Il pouvait sortir par une plus grande porte, on va dire. En conservant cette classe-là qu'il n'a pas toujours eu envers les arbitres, etc.
Mais à la base, il ne voulait pas Mbappé aussi. Hein. Il ne voulait pas.
Mais on va dire qu'il a
suivi
le sale comportement de ses joueurs, de sa direction.
Il
ne
voulait pas dans ce collectif.
Mais globalement, ça reste un mec. Ça reste un monument quand même. Et pour revenir à Modric, je pense que c'est le bon choix de la direction sportive du Real de tourner la page. Il faut savoir, c'est très dur. C'est la chose la plus dure à faire dans le foot. Ça a été dur pour Gerrard, pour Totti, pour toutes les grandes légendes. Mais. Je pense que c'est la bonne chose pour un renouveau. T'arrives avec un nouveau coach, t'arrives avec un mec qui a des nouvelles idées.
Bonne chance pour le remplacer, par contre.
Je suis d'accord, bonne chance pour le remplacer. Mais d'un côté, tu pouvais plus baser ta politique sportive sur Modric au milieu de terrain maintenant. C'était plus possible. Donc, lui rendre un bel hommage comme ça a été fait au Bernabeu, c'est parfait. Ça aurait été encore mieux qu'il parte sur un titre comme Kroos. Ça a pas pu être le cas, malheureusement.
Kroos, il est parti sur tous les titres qu'il
C'est la meilleure des fins, mais c'est la plus dure.
Ouais, c'est la plus dure.
On n'a pas de
à Roland Garros. Parce que c'est pas juste tu gagnes tous les titres et t'es sur le banc. Non, il y contribue très fortement.
Il est titulaire.
Mais on est en période de Roland Garros, on peut faire un petit parallèle. Mais Nadal disait dans l'équipe avant-hier que son plus grand regret, c'est de pas être parti après Roland Garros 2022 qui gagne. Et en fait, tu peux pas savoir parce que en tant que champion, t'espères, tu te dis mais peut-être que l'année prochaine, je vais encore gagner. Donc c'est le plus dur de partir après.
Et Luka Modric, lui, pense
mais c'est
plus...
les plus belles fins.
Oui, mais Luka Modric pense plus à la Coupe du Monde
aussi.
Avec son pays aussi.
Aussi.
Parce que c'est ça aussi, le Real ne sont pas dupes. Ils savent que lui, s'il veut tenir la forme, la Coupe du Monde, ça serait jusqu'en 2025. Je pense qu'il aurait pris sa retraite.
Je pense aussi, ouais.
Après, mais juste là, c'est en 2026, il veut pousser une année pour aller encore.
Moi, je pense qu'il va quand même être.
S'il veut un intérim, il peut venir à l'OM.
Évidemment, il va quand même être sélectionné, ça c'est sûr.
Il peut venir à l'OM s'il veut un intérim de 6 mois.
Ça doit être ça, ouais.
Ça doit être compliqué, là.
Non, vous le voyez où en vrai?
Oh, je sais pas.
Parce que je pense que justement, s'il veut jouer à la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, il va vouloir un club qui a quand même un petit peu de risque.
Si, je pense s'il va au Qatar, il va au Qatar,
il va
la jouer. Il
va au Qatar, aux États-Unis.
C'est lui quand même, c'est Ballon d'Or au prime de Cristiano Messi. Donc, on parle pas de n'importe quel joueur.
En tout cas, c'est un joueur qui fait l'unanimité. Et ça, c'est très rare.
Que ce soit chez les Catalans, un peu partout, en fait, c'est un joueur de classe mondiale, comme on le dit.
Moi, j'ai juste un truc à dire.
C'est une perte pour le football, en fait.
Merci à Modric, depuis Tottenham, depuis même Ancelotti, merci à eux. Franchement, parce que c'est des gens, même. Ils finissent avec le Real, mais ils finissent avec classe. C'est des joueurs qu'on a une bonne image de, on a une bonne image d'eux.
À lui, pour le coup, c'est la classe, c'est 100%. Il n'y a jamais eu un dérapage, un truc bizarre.
En plus, exemplaire, pas de carton et tout ça, en fait. C'est un joueur, en fait.
Il reste toujours classe, quand même.
Non, mais t'as le droit de t'énerver de temps en temps. Mais
Mais moi, j'adore Modric. C'est vrai que c'est la classe, mais il y a des fois où
il parle. Pourquoi il gueule un peu, mais ça arrive.
Il gueule beaucoup, même, je dirais.
Tu joues 600 matchs de professionnel ou 1000, t'es obligé de.
C'est un compétiteur aussi, tu vois.
Vous imaginez qu'au début, en fait, aucun vraiment.
À ce niveau-là, il n'y a pas de mec gentil.
Quand on parle de classe, c'est même au niveau.
Au Real Madrid, les gens ne parlaient pas sur lui. En fait, j'imagine qu'au début, les supporters, en fait, les socios, ils disaient.
Parce que personne l'attendait à ce niveau-là.
C'était la pire recrue. Et tu t'imagines qu'à la fin, en fait, il a une standing ovation à Bernabéu avec 28 titres. Déjà, il part en tant que le meilleur joueur, en fait, le joueur le plus titré du Real Madrid. Donc,
quand on dit classe, c'est même dans le jeu, même dans le jeu, la classe.
Modric, vraiment, c'est en fait, c'est le parcours atypique du joueur, vraiment.
C'est Modric
qui veut faire une grande carrière.
Merci en tout cas chez Kenza et Carlo Ancelotti qui va du côté de la Seleção, un petit retour.
Mais t'as vu qu'il a sélectionné Casemiro.
Oui. Ouais, mais Casemiro qui fait une bonne saison. Avec United, deuxième partie de saison en tout cas.
Si le Brésil est champion du monde dans un an, vraiment, j'y crois pas une seconde là actuellement. Ouais. Donc je suis prêt à m'engager sur un truc lourd. Je vois pas comment ils sont.
Là, je retire tout ce que j'ai dit sur Ancelotti.
Il a le secret de la gagne.
Même s'il va en demi-finale, c'est trop bien.
Il a le secret de la gagne.
Parce que là,
il
n'y a plus personne au Brésil.
La génération est dégueulasse.
Elle est dégueulasse.
La génération est dégueulasse.
Qui tu veux prendre? Il n'a pas pris Neymar. Mais ça fait 2 ans qu'il n'a pas été.
Neymar, tu veux prendre pour aller où? Neymar, il n'est même pas dribble.
Il est claqué.
Il n'a pas pris Rodrigo.
C'est normal de ne pas prendre Neymar.
C'est des matchs à Santos là. Il n'est pas dedans.
C'est normal de ne pas avoir pris Neymar. Mais Casemiro, je suis désolé, il est 17ème de PL.
Il a été élu meilleur joueur de Ligue Europa, non, il me semble.
Casemiro
ou deuxième, un truc comme ça. Je sais pas. En tout cas, Casemiro a fait une bonne campagne en Ligue Europa.
On parle de Ligue des Champions.
Et même truc. Oui, on va parler de la Ligue des Champions. Ah oui, toi, t'es pressé de supporter le Paris
Saint-Germain.
Exactement.
On parle de Ligue des Champions. Il y a pas une histoire de Ballon d'Or là.
On va parler.
Oh les gars, on est au mois de juin là.
Non, parce que
attendez, Mbappé soulier d'or, premier soulier d'or de Kylian Mbappé. Une saison réussie alors? Oui ou non? Je veux juste entendre oui ou non, s'il vous plaît. Oui ou non?
Oui.
Oui ou non?
Sur le plan personnel, oui.
C'est dur, mais vas-y, oui.
Maxence?
Oui.
Que des oui à la table. Donc, une saison réussie pour Kylian Mbappé.
C'est aussi évident que ça, c'est très bien.
Juste une chose, parce que t'étais pas encore arrivé. Oui. Il y a un type sur cette table qui a commis l'audace de dire que Mbappé avait plus de mérite d'avoir le ballon d'or qu'à Dembélé ou qu'à Yamal.
Mais c'est moi qui l'ai dit, en fait.
Vous savez que j'ai entendu, moi, et vous savez ce que j'ai entendu? Que Yamal ne méritait même pas d'être dans le top 3.
Hein, bon, monsieur deux enclos. Monsieur deux enclos.
On finit l'émission. Je m'en vais.
Oh là là. Mais il faut allumer la télévision.
Attendez, non, mais je vous le dis, parce qu'on m'a dit que Yamal ne méritait pas de finir quand même dans le top 3. Mais Kylian Mbappé, que si Kylian Mbappé, parce que le monsieur ne s'est pas arrêté là, il m'a dit que si Kylian Mbappé gagne la Coupe du Monde des clubs.
Avec la Ligue des Nations, c'est important, ça.
Excusez-moi, mais qu'il pourrait prendre la Ligue des Champions. En tout cas, on lui passe le bonsoir.
Non, mais c'est une émission sérieuse.
Mais merci. Comment?
Si Guiri gagne le trophée des champions,
Non, là vraiment, c'est pas les mêmes niveaux.
Pas,
là.
Il
faut arrêter un moment, Max. Il faut arrêter.
C'est possible, c'est possible. Tout moment, est possible. Mais Greenwood, ça ne sera pas possible pour lui.
Non, mais j'ai pas envie.
Merci en tout cas. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain face à l'Inter Milan. Inter, Paris Saint-Germain, quels sont vos pronostics, messieurs? J-5, hein, tout simplement. On y arrive. On va faire très court pour pouvoir se faire un petit quiz en fin d'émission. Alors, dites-nous tout. Maxence, qui était très excité de parler de ce sujet. Donc, Maxence, dis-nous tout. Dis-nous, bien évidemment, j'espère que tu vas faire comme Boli. Tu vas supporter le Paris Saint-Germain en finale de Champions League.
Comme Boli, comme Zidane.
Mais évidemment que non.
Ah oui,
évidemment que non. Non, mais ces mecs-là répondent de manière politique. Parce que Zidane, il sera sélectionneur de l'équipe de France dans un an. Oui. Il va avoir Dembélé, il va avoir Doué. Il peut pas dire qu'il est contre.
Il a même pas cité... Franchement, il peut le dire.
Il a même pas cité le PSG. Pour info, il a juste dit on espère que l'équipe française gagnera. Il cite même pas le PSG. Donc ouais, voilà. Mais après, c'est une question qui est quand même très franco-française. Hein. Les gars, c'est
oui.
Vraiment. Ailleurs, on ne pose pas cette question. Et ça prouve qu'on n'est pas un pays de foot.
Mais oui.
Allez voir demain. Allez voir demain Paolo Maldini et lui demander s'il est pour l'Inter.
Il te dirait oui.
Mais il va même. Hein?
Il va dire
quoi?
T'as dit non.
Paolo Maldini, il va même pas. Mais il va même pas répondre à la question, il va te cracher dessus.
Tu rigoles, ouais, parce que c'est le pire ennemi de Milan.
C'est toujours comme
Milan,
ça. Et dans tous les pays, on ne pose même pas la question.
Mais
enfin,
oui,
vous allez
intérêt.
Demander aux supporters de City s'ils ont supporté United la semaine dernière. Mais
jamais, ils te diront jamais, en fait.
Et moi, je le dis en tant que supporter de l'OM, si demain, contre la finale contre l'Atlético. Mais je préférais que les Parisiens soient pas pour l'OM. Mais et puis,
sûr.
Encore heureux. Et les Parisiens doivent pas souhaiter que les Marseillais les supportent. Au contraire, c'est ça qui fait la beauté du foot. C'est ça qui fait le côté de ces le côté
ouais,
historique
zéro hypocrisie,
de ces
zéro hypocrisie,
bien sûr,
voilà, il faut être sincère et tout.
Quel intérêt de gagner si c'est pour que tes ennemis que tu tailles à longueur d'année, ils soient avec toi et qu'ils aient tous gagné? Bien sûr que non. C'est, tu restes sur tes standards habituels. Et, donc,
et si tu gagnes vraiment, c'est encore plus de saveur, en fait.
Exactement. Moi, quel mérite j'aurais à m'attribuer un titre du PSG en disant « Ah, oh, trop bien, on a gagné !» Mais pas du tout. Enfin, les gars, faut pouvoir se regarder dans un miroir aussi à un moment.
Mais en fait, si vous me permettez, en fait, les contextes sont un peu différents. Vu qu'en fait, en France, il n'y a qu'une seule équipe qui a gagné ce trophée. Donc du coup, là, quand tu parles des autres championnats, par exemple, tu te dis que en fait, le Milan, il a déjà gagné, l'Inter a déjà gagné, il y a la Juventus qui l'a déjà gagné.
Tu penses que les Marseillais, ils veulent que Paris revienne à une étoile?
Demain, si le Sporting est en finale de Ligue des Champions,
mais
les supporters de Benfica, ils ne seront pas pour eux.
Jamais.
C'est juste qu'on n'est pas un pays de foot.
C'est la culture football.
On n'a pas la culture foot dans ce pays.
J'ai déjà un truc, moi. En 2016, quand il y a OM Atlético, je suis fort pour l'Atlético. Jamais de la vie, je suis pour l'OM. Mais j'ai rien à voir avec l'équipe française, c'est pas mon problème.
On n'avait même pas besoin de supporter l'Atlético du côté de
Clinton et Jim. Parce que l'OM déjà, en fait. L'OM déjà était déjà dans ses déboires, en fait.
Mais ça n'a rien à voir avec le premier ou le deuxième trophée.
Oui,
quoi
non,
que ce soit.
Non,
ça reste la culture football, c'est comme ça, c'est tout, c'est des clubs ennemis. C'est ennemis.
Mais
il y a que
en c'est France. Vrai, c'est comme si tu me dis qu'en fait, que le Real Madrid en finale de Ligue des Champions et les Barcelona.
Et tu vas demander à Xavi Iniesta s'ils sont pour le Real.
Jamais,
ils
te diraient non.
Mais évidemment,
même si ça impacte le coefficient, même si l'OM doit gagner,
on s'en fout,
je m'en fous. Je veux que l'OM perde, c'est pas mon problème.
Oui. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner dans une société normale.
Mais bien sûr que oui.
Donc voilà,
excusez-nous, d'accord,
de
merci.
Un peu chafouin, je vais pour l'Inter.
Voilà, d'accord, mais parlez-moi du pronostic. Quels sont vos pronostics surtout?
Non, alors en vrai, je pense que ça va être une finale plutôt fermée. Parce que je pense que c'est l'Inter qui va réussir à mettre sa patte un petit peu sur ce match-là et que c'est toujours plus facile d'annihiler des volontés offensives. Que de les appliquer, on va dire. Donc je pense que c'est que le PSG aura le ballon et que l'Inter va faire un match à sa main. Je pense que plus le match va durer, plus ça va être bon pour l'Inter. Et que Paris, si ça doit gagner, il faut que ça gagne de manière assez limpide et pas largement, mais que ça marque très tôt. Je pense que si on arrive à la 60-70e avec un 0-0, un match un peu pourri comme ça, je pense que c'est le match que l'Inter va chercher à avoir avec une grosse force sur coup de pied arrêté. Un peu comme ils l'ont fait contre le Barça. Hein. Même si je pense que le PSG a moins la capacité que le Barça de déséquilibrer l'Inter. Mais le PSG est aussi beaucoup plus solide que le Barça pour tenir les assauts et se mettre moins en danger. Mais je pense que les coups de pied arrêtés vont jouer un gros rôle dans ce match. Et je pense que l'Inter va miser pas mal là-dessus. Les mecs de l'Inter, ça fait 2-3 semaines qu'ils jouent plus là. Ils sont totalement que sur ce match-là, que sur cette finale. C'est, pour moi, c'est le match d'une vie pour ces mecs-là, quasiment, parce qu'après ça, ils ne la retrouveront plus, du moins de cet effectif-là. Alors que le PSG, l'année prochaine, l'équipe ne va quasiment pas bouger. Ça va être dans la continuité. Donc, si je dois faire un prono, qui est mon prono du cœur et du cerveau, ça va être 1-0 Inter, Bastoni de la tête à la 72e.
Ça doit être ça, ouais.
C'est si précis.
Normal, c'est supporté marseillais, donc.
Et toi, Chekenza, qu'est-ce que tu en as pensé?
Bon, moi, je crois que vraiment, Luis Enrique, en fait, il se prépare en houlette pour ramener vraiment en fait ce trophée là du voilà du côté francilien. On en a besoin et je crois que Paris va le faire. Paris va le faire, même ça serait vraiment un match en fait ou le match difficile. Paris vraiment avec cette équipe Interiste qui est très en place, mais je crois que Paris va le faire, un 2-0. Ça serait un peu une surprise pour les autres, mais Paris va le faire. Je les vois vraiment déséquilibrer cette équipe-là, vu en fait les dernières prestations, National qui était en place, il y a une équipe vraiment de village, et Liverpool vraiment qui était le favori vraiment, Paris a réussi à déséquilibrer cette équipe, je ne les vois pas ne pas faire douter l'Inter. Et je me dis que c'est l'année de Paris, hein, il y a un peu tout qui joue en la faveur d'eux. Donc Paris Saint-Germain fait 2-0, un but de Dembélé et des Doué.
Merci, Cheikh Kenza. Salson. On va terminer par Salson. Juste le petit rire, ça m'aura suffi, merci. Alexandre.
50-50. Franchement, 50-50. Et l'avantage que Paris a et que Barcelone n'a pas, c'est d'abord qu'ils ont un très bon gardien.
C'est l'Inter. Ah oui.
Je parle de ça. Parce que là, ils jouent contre l'Inter, justement. Parce que l'Inter, on connaît la copie qu'ils vont rendre. Hein. Peut-être qu'il y aura des joueurs un peu moins en forme, etc. Mais on connaît la copie qu'ils vont rendre. On sait qu'ils ont une bonne profondeur de banc, etc.
Hakimi qui retrouve son ancien club. Hein.
En plus,
quand même, c'est
gagné, certains de ses anciens coéquipiers. Mais en tout cas, l'avantage qu'ils ont, c'est déjà un très bon gardien et des latéraux qui sont rapides. Qui sont très rapides, alors que Barcelone jouait avec 4 défenseurs centraux, bref, c'était compliqué. Et on sait que la force de l'Inter, c'est donc les projections assez rapides et très bien coordonnées, notamment de Di Marco et Dumfries, etc. Alors que là, avec les retours défensifs de Hakimi et Nuno Mendes, et Vitinha et Neves qui peuvent compenser aussi un petit peu, bah franchement, ça, c'est un atout pour Paris. Après, ce sera vraiment une finale compliquée. Le point faible, on va dire, entre guillemets, de Paris, pour moi, c'est le banc. Parce que, mine de rien, si... Je ne souhaite pas, hein, parce que je ne souhaite jamais de blessure, mais si jamais il y a un blessé ou un joueur qui passe totalement à côté de sa rencontre au milieu de terrain, faire entrer Zaïre Emery, c'est un petit peu compliqué, Lee, c'est compliqué, etc.
Il manque de temps de jeu, etc.
Donc il faut vraiment que les trois au milieu de terrain, ils soient vraiment dans un très bon jour. Bon, ils le sont hein, depuis le début de l'année, mais ils soient vraiment dans un très bon jour. Alors que l'Inter, voilà, ils ont peut-être une meilleure profondeur de banc. Sinon, voilà, si je devais donner un pronostic, là, c'est vraiment compliqué. Moi, vous savez, l'amour que j'ai pour Paris, mais en vrai, vu que Paris joue bien au football, je commence à apprécier l'équipe, en vérité. Surtout que c'est Luis Enrique, le coach. Donc franchement, au bout d'un moment, il faut qu'il la gagne, Paris. Je dirais un partout. Et je dirais que ça va se jouer...
En prolongation ?
Au tir au but. Okay. Et victoire du Paris Saint-Germain. Allez.
Merci, Alexandre. Salson ?
Ouais, bon, écoutez, je pense qu'on va refaire un peu les historiques des finales. On n'a pas eu des finales grandioses ces dernières années, donc on ne peut pas s'attendre non plus à une finale de malade. Et je rejoins Maxence et Alex, ça va être une finale assez serrée. Mais je pense qu'on peut aussi assister à un match similaire entre le Barça et l'Inter, parce que c'est quand même, Barça et le PSG, c'est des équipes assez similaires. Et sauf que, comme tu as dit, peut-être qu'il y a un meilleur gardien. Donc on va voir samedi soir, mais je pense que le Paris Saint-Germain a son mot à dire dans cette finale.
Tic-tac.
C'est pas comme s'ils étaient en dessous de cette équipe, mais il faut pas oublier que l'Inter a quand même l'expérience. Ils étaient en finale il y a deux ans.
Ça peut leur servir,
ça peut leur servir, ça peut être une bonne leçon pour eux, et ils ont quand même un effectif expérimenté.
Ouais, en gros t'as rien dit quoi. Le PSG a sa chance, l'Inter a sa chance.
Mais t'as pas développé.
Tranquille les gars, moi je
positionne-toi.
Est-ce que vous m'avez entendu
mais
parler
de Paris va gagner avec des champions.
Je le dis pas. Je dis juste.
Bah, tu pas.
Non.
Et là, il a posé une question.
Non, mais écoutez-moi, pas moi depuis le début de saison. Est-ce que vous m'avez entendu dire que Paris Saint-Germain va faire ci, va faire ça?
Mais là, c'est le moment de le dire.
Bien évidemment. Mais Salson.
Oui.
Salson. Attends. Non, excusez-moi, mais attendez, Salson. Nous sommes en finale de Ligue des Champions. Là, on pose la question au chroniqueur. Voilà, t'es obligé de répondre, de nous dire ton avis en tant que chroniqueur. Ce que tu penses, ton pronostic entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan.
Depuis tout à l'heure, je fais le chroniqueur poli, vous êtes là, vous m'attaquez. Le Paris Saint-Germain va remporter cette Ligue des Champions.
Bah voilà.
C'est tout. Si vous voulez savoir, le Paris Saint-Germain va remporter cette Ligue des Champions. Et je vous le dis sur ce plateau, je n'ai pas peur. L'Inter de Milan ne me fait pas peur. J'ai le droit de le dire. Le Paris Saint-Germain va soulever cette coupe et va la ramener sur les champs.
Oh, j'ai hâte d'être samedi soir.
Et du coup, ils vont s'imposer combien ?
Franchement ? Ouais, un bon petit.
Là, tu titilles
ouais,
un peu.
Ouais, plus un. Parce que l'Inter, ça reste costaud quand même.
1-0.
1-0, 2-1, 3-2. Ça va être un match serré, mais ça va être un Paris Saint-Germain qui va gagner par un but d'écart. Ça, c'est mon avis.
Merci Salson, hein, en tout cas. Nous, on pense que, bon, de toute façon, on peut même demander l'avis de Jason. Hein. Jason à la technique. Jason, toi, qu'est-ce que t'en penses du. Il part sur un 2-1 pour le Paris Saint-Germain, je suppose. Voilà, 2-1 pour le Paris Saint-Germain du côté de Jason. Du coup, victoire, hein, 4, on a 4 victoires du côté du Paris Saint-Germain.
Enregistrer les vidéos.
Et 1 pour l'Inter, en tout cas Maxence, voilà, qui est pour l'Inter et qui veut aussi que.
Il va se manger un pressing, Salson, si Paris perd, moi je vous le dis.
Merci en tout cas. On va se faire. Attendez, très rapidement, il y a Betis Séville aussi et Chelsea qui vont jouer la finale de Conference League mercredi. Un mot, chez Kenza. Très rapide. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que qui va s'imposer?
Bon, moi, je crois que Chelsea a les chances, mais ça serait un match ouvert.
Non, tu penses que qui va s'imposer?
Chelsea. Okay.
Merci, merci, chèque.
Oh, Chelsea.
Chelsea. Allez, Betis.
Merci bien.
Je peux poser une question?
Oui.
La conférence, elle n'est pas passée encore?
Non,
c'est la conférence. La conférence, elle est passée avant la Ligue Europa.
Ouais, ils font ça, c'est la deuxième fois qu'ils font ça.
C'est logique, ça, leur truc.
La logique, ouais.
La Ligue Europa est passée avant. Bon, vous ne m'avez pas demandé mon avis, moi, sur les deux finales. Moi, franchement, ça m'arrange pas mal. Mais,
non, mais tu vas parler à moi.
Tu vas te briller, le présentateur.
Non, on y arrive. Lance-toi. Semaine prochaine, on y reviendra. Ne vous inquiétez pas. On va se faire un petit quiz très rapidement. Si vous. Je vais vous le donner quand même. Betis et Séville vont s'imposer. on va se faire un petit quiz très rapidement. Hein. Vous êtes prêts?
Oui.
Parti.
Ok, Jason, tu peux lancer quand tu veux. Quel sélectionneur a remporté 2 fois la Coupe du Monde?
Deschamps. 98 et...
Non, en tant que
sélectionneur.
En tant que coach.
Ah. En tant que coach.
Ouh là là.
Celui du Brésil 60.
Comment?
Solari.
C'est pas Brésil
Solari.
60?
Non.
Solari
60.
Non, le
Brésil dans les années Pelé, quoi.
Non, mais faut que tu me dises.
Ouais, mais j'ai pas le nom.
T'as dit qui?
Solari.
Solari?
Ouais.
Eh ben non, ce n'est pas Solari.
Alberto Pereira?
Non plus.
Beckenbauer?
Non plus.
Non, Beckenbauer en tant que joueur et entraîneur, mais pas en tant que.
Vous ne l'avez pas?
Non.
C'est un Italien.
Arrigo Sacchi?
Non.
Ah, c'est pas Capello.
Non.
Ah. Lippi, il en a une. Non, j'ai pas.
Ouais, non, j'ai pas.
Vittorio Pozzo.
J'aurais jamais.
Avec l'Italie, 1934-1938.
Ouais. Ah oui, bah oui, d'affilée. Ouais. Oui, c'était les deux.
Mon grand-père n'est pas.
L'avant-guerre, ça compte.
Ah ouais, l'avant-guerre, c'est pas trop.
On sait pas, hein. Il y a Chekenza qui nous sort des noms assez connus quand même. Quel club. Non, ça, c'est assez facile. Quel gardien détient le record du plus grand nombre de clean sheets en Ligue des Champions?
Cette année ou en général?
En général, hein, dans l'histoire, quoi.
Neuer?
Petrosec?
Non.
Buffon?
Non plus.
Oliver Kahn?
Non plus.
Casillas?
Iker Casillas pour Maxence. C'est bien ça, Iker Casillas. Pour Marseille. Troisième.
Pour Marseille. Ça peut.
Ouais, ça peut. Mais non, c'était pour le Real Madrid. Quelle est la seule équipe invaincue lors d'une saison complète de Première Ligue?
Arsenal.
Arsenal.
Ouais, les Amazons. 2003-2004.
C'est ça, exactement. Et on va faire deux petites dernières. Hein, ça va être très rapide. Quel club français a atteint la finale de la Ligue des Champions?
Monaco.
En 2004.
Ouais. Ah oui, d'accord.
Ouais, ça y est.
Monaco pour Salson, c'est ça, Salson qui l'a dit.
Alexandre.
C'est Alexandre. Ouais. Alexandre
mais t'avais pas donné la date.
2004, oui, Monaco, Adebayor, Julie, Roten.
Morientes.
Qui a été élu meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde 2014?
Rodriguez.
Rames.
Rames Rodriguez.
Non, c'est Pogba.
Non,
c'est Paul Pogba.
C'est Paul Pogba. Rames était meilleur joueur
Pogba avec le trophée.
Merci. Il avait 19 Alexandre, ans. Ça fait 2 points pour Alexandre.
21 ans, je sais
pas. On va se faire une toute petite dernière. Hein. Allez, je vais vous faire la petite dernière. Faudra l'avoir celle-là. Quel joueur a marqué le but du siècle selon la FIFA lors d'un
Zlatan match Zlatan Ibrahimovic. Ah, lors d'un match de Coupe du Monde.
Le Neymar du coup.
Maradona.
Maradona, oui. Pour Maxence, oui, c'est, vrai, oui, c'est Maradona.
C'était pas la main. C'était pas la main, non, c'était le deuxième. Ouais, parce que la main, c'est la baleine du siècle, si on veut. Mais
c'était en fait le slalom, là.
Le slalom, là. Le même match.
C'est ça.
Ça se pas pelé quand il fait ses sombreros.
Non, c'est Maradona, le slalom.
Merci beaucoup, en tout cas, Maxence. Merci à Alexandre. Merci à Salson. Merci à Shekenza. Merci à Jason à la technique. Merci à vous. La semaine prochaine, on va se retrouver, bien évidemment. Et on saura déjà qui aura gagné la Ligue des Champions. Du coup, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et on y revient très rapidement.
Je suis pas là lundi prochain, vous savez pourquoi.
Maxence, j'aimerais t'inviter sur les champs pour célébrer la victoire du PSG.
Bonne soirée. Merci, mesdames et messieurs.